une production du Studio SF.
Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Ouais, sinon, cette semaine, Doom,
ceci étant dit, Antoine-Olivier Pilon, qui est un comédien que vous connaissez, là, qu'on voit dans... qu'on a vu... qui s'est fait connaître surtout dans Mommy, ouais. Du grand public, là, dans le film de Xavier Dolan, où il est absolument époustouflant, excellent, incroyable. Sinon, il a fait d'autres films, Junior Majeur, quelques autres émissions aussi. Un gars, j'ai été vraiment surpris. En fait, je suis tombé carrément sur le cul de la maturité de ce gars-là. Puis je pense que j'ai dit 10 fois dans le podcast, hey, t'es tellement mature. Je commençais à être gossant. Mais honnêtement, c'est incroyable, parce que il est quand même une couple d'années plus jeune que nous. Ouais. Puis moi, il me torche le niveau maturité, puis niveau...
conscience de sa propre personne.
Conscience de sa propre personne, mais conscience aussi des relations avec les autres humains autour de lui. Puis de comment bien s'exprimer aux gens, comment bien communiquer, tout ça. Puis c'est quelque chose qui a vraiment travaillé, puis ça paraît, puis que c'est quelque chose qui a vraiment réfléchi beaucoup. Fait qu'on a beaucoup parlé de ça. Ça a été vraiment... ça a vite pris cette direction-là, ouais. La conversation sur les relations interpersonnelles, puis comment vraiment, finalement, mieux communiquer, puis finalement être une meilleure personne. Mais aussi du cinéma, on a parlé de ses rôles, puis de ça, puis de son métier, puis qu'est-ce que c'est, puis... qu'est-ce qu'il recherche là-dedans, qu'est-ce qu'il aime dans son métier. Une grande rencontre, un gars que j'ai adoré, j'ai vraiment trippé sur ce gars-là. Fait que je suis certain que vous allez tripper vous autres aussi.
On est vraiment privilégiés. À chaque semaine, on dit la même chose. Là, comme une belle rencontre. À chaque fois, c'est les meilleures rencontres. C'est vraiment le fun.
Honnêtement, tu sais, nous autres, c'est qu'on invite des gens qu'on admire, qui nous inspirent, qu'on trouve intéressants. Puis à chaque fois, en plus, après une conversation comme ça, on les trouve 10 fois plus intéressants qu'on pensait qu'ils l'étaient. Tout
fait à fait.
C'est vraiment enrichissant pour nous autres.
Tout à fait. Sinon, vous nous écoutez en ce moment sur YouTube, sur Balado. Abonnez-vous à notre chaîne. Laissez des commentaires. Participez à la discussion. Aussi, vous avez sans doute entendu parler déjà de notre projet du Studio SF qu'on a lancé la semaine passée avec Jay du Temple. Vous avez déjà des podcasts qui sont disponibles. Le temps d'un jujube avec Adamo. Où est-ce qu'Adamo, il prend un jujube au THC, puis il discute avec des artisans de la scène hip-hop, puis éventuellement des artistes en général. Ensuite, Jay du Temple discute, qui est sorti probablement, si vous écoutez ça mardi, c'est sorti hier. Jay du Temple discute, qui est Jay du Temple qui s'assoit, puis qui discute, ça porte bien son nom. Abonnez-vous à ces chaînes-là aussi, restez à l'affût, parce que si vous aimez le contenu podcast, puis si vous nous écoutez en ce moment, j'imagine que c'est parce que vous aimez ça. Il va en avoir de la grande qualité qui va sortir du Studio SF, c'est garanti. Puis sinon, on vous aime toute la gang, puis c'est ça. Fait que bon podcast.
Bonne écoute.
Hey!
Salut,
right,
man!
Hey.
Salut, les gars!
Ça va bien?
Ça va super bien,
merci. Yes. Merci d'être là, man, dans notre nouveau studio. T'es le premier qu'on enregistre avec, là. On espère que ça va bien se passer.
On dévierge le studio.
On dévierge le studio, right. Exact. On vient de se faire 4 cold shots.
Ouais, c'est ça, là.
On vient de se clincer 4 bières d'affilée juste pour le trip.
Ah ouais?
Hey, merci d'avoir accepté de venir, man.
Ça me fait plaisir, merci de l'invitation.
Ça fait extrêmement plaisir. Tu disais que t'écoutais des podcasts.
Ouais, un peu.
Maintenant?
Ouais, de plus en plus. Ben là, j'écoute Joe Rogan, comme la majorité de tout le monde, je pense.
Ah.
Puis sinon, je fouille un peu. Là, j'ai pas trouvé beaucoup d'autres personnes, mais j'aime ça, explorer ça un peu, justement. Puis quand j'ai vu votre invitation, je trouvais ça intéressant d'en faire partie d'un.
C'est de quoi que t'es le plus tanné des entrevues traditionnelles, mettons? Parce que quand tu fais la tournée médiatique pour peu importe c'est quoi tes projets, j'imagine que amener, il y a des questions, c'est comme...
C'est très rapide, souvent on a comme 2 minutes, puis on va être le réalisateur, puis 3 acteurs du film, dans un petit studio de radio, on va être reçu, puis là, dans cette même journée-là, on en a peut-être 6 radios différentes qu'on va faire, donc on a des segments de 2 minutes, même pas, fait que c'est souvent juste les grosses lignes. Mm-hmm. On parle et tout, puis je trouve ça le fun des fois, justement, moi, les entrevues, où est-ce que c'est plus... détendu un peu, où est-ce qu'on a plus d'espace à sortir des chantiers battus un peu.
Ouais.
Des sentiers, non pas des chantiers battus. Ouais.
Les deux fonctionnent, rendu là.
C'est drôle que tu dises ça, parce que justement, tu sais, vu que tu t'en venais, là, je checkais un peu, tu sais, mettons, sur YouTube. Puis là, j'aimerais ça entendre une plus longue entrevue de lui, tu sais, l'entendre parler un peu plus. Puis Je n'en ai pas vraiment trouvé.
Faisons-la,
exact.
Exact. Toi, c'est quand tu as commencé à acter?
Quand j'ai déménagé à Montréal à l'âge de 11 ans environ. Je suis né à Montréal, mais j'ai grandi en Gaspésie.
Ah ouais?
Ouais.
Où?
À Port-Daniel.
C'est où,
Port-Daniel? Dans la baie des Chaleurs.
Okay. Hein, je suis allé faire un show là, l'été passé.
À Port-Daniel?
À Port-Daniel.
Ah ouais? Ouais. T'as dû passer devant la maison où est-ce que j'ai grandi. Ça s'appelle le gîte Bleu-sur-Mer.
Qui s'est rendu un gîte maintenant? Ouais, c'était un gîte à ce moment-là.
Mes parents sont déménagés en Gaspésie pour ouvrir un gîte.
Ah ouais, puis tes parents sont encore là?
Ouais, mon père est toujours là. Ouais. Okay, ah ouais. Après ça, je suis revenu avec ma mère à Montréal. Ouais.
Cool, cool, cool.
Ouais, ouais.
C'est hot comme village, c'est beau, man.
C'était quoi ton gîte?
C'est super cute.
En fait, on était supposé jouer dehors dans un festival, tu sais, sur le bord de l'eau, puis ça, beau stage extérieur.
Avec quoi le gig? C'était quoi le...
C'était avec Carrefour, avec ma blonde, puis. Il pleuvait, fait qu'on a joué genre dans l'aréna, qui était un peu moins nice, puis avec genre le pire acoustique de l'histoire. C'était juste de l'écho.
C'est la crise de mars, finalement.
Non, mais tu sais,
en fait, était beau.
Ça a été vraiment malade, puis ça a été cool, tu sais.
Ouais, okay.
Fait que, mais ouais, c'est un beau village. La première fois que j'allais en Gaspésie.
Puis c'est ça, fait que dans le fond, on est revenu. Moi, je suis revenu à Montréal après, puis à partir de là, je savais déjà, en fait, je pense, je sais pas, depuis l'âge de 8 ans, peut-être, je sais que je veux faire ça. J'avais déjà vu des enfants. Dans des émissions comme Une grenade avec ça, ou La tête une fois dans le trouble, que j'écoutais religieusement. Puis j'avais vu un enfant m'en apparaître, puis j'ai fait comme, ils ont besoin d'enfants.
Ouais.
Les kids, ouais, ils peuvent faire ça, lui, il est là, tu sais. Puis là, on a demandé à nos parents, puis on était comme à 10 heures de Montréal, fait que c'était pas l'idéal pour des auditions. Puis là, ben, une fois qu'on a déménagé, on a commencé. Man, j'ai ouvert Google, j'ai écrit comment devenir acteur au Québec.
Sérieux?
Puis là, j'ai vu qu'il fallait être dans
une agence. C'est quoi la première étape?
WikiHow.
Genre là, il montrait des agences de talents au Québec. Puis là, il disait les prochaines auditions pour rentrer dans l'agence sont telle date, par exemple, ouverte au public. Fait que là, on parle à notre mère, on peut y aller, on aimerait ça. OK, parfait, on y va, ma soeur et moi, qui elle aussi voulait faire ça. Puis là, ben, on a fait notre audition pour l'agence, puis ça a fonctionné. À partir de là, eux nous ont donné des auditions pour des projets.
Malade. C'était quoi l'agence, juste pour le fun?
L'agence Kiwi, je crois.
OK. Ouais, puis là, à partir de ça, t'as pogné tes premiers rôles?
Ben, à partir de là, j'ai auditionné, j'ai décroché le rôle pour Frisson des collines.
Ouais.
Puis à partir de ça, ouais, ça a comme déboulé. Là, j'ai auditionné pour Pee-wee 3D aussi. Après ça, ça a été Xavier qui m'a écrit pour Laurence Anyways. J'avais comme une petite apparition dans le film.
Ah ouais.
Puis après ça, il m'a écrit pour le vidéoclip d'Indochine, College Boy, qui, pendant le tournage de ça, a eu l'idée du film Mamie aussi, puis ainsi de suite.
À partir de là.
Ouais,
ouais, à partir de là, on connaît l'histoire un peu.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Mais c'est puis Xavier, t'as spoté comment? Parce que, on s'entend...
Je pense qu'il m'a vu dans la Frisson des collines.
Ah ouais, OK.
Ouais, ouais, puis il m'avait trouvé bien cute à genre l'âge de... Moi, j'avais 13 ans quand j'ai fait.
Quel âge t'as maintenant?
J'ai 21. Okay. Genre 22 en juin. Okay. Ouais. Puis je pense que c'est ça, il m'avait vu dans Frisson. Je pense qu'il avait aimé ce que j'avais fait.
Okay.
Puis il m'a comme juste offert. Puis c'est un petit rôle dans Laurence et Noël. J'aurais pu être complètement à chier. Puis ça aurait pas fucké le film, je pense.
ça aurait été correct.
Mais quand même, c'est le fait qu'il était déjà quand même assez connu à l'époque, Xavier. Puis qu'il m'écrive.
Ouais, il était connu avant Mamie.
C'est son premier film, en fait, il était connu.
Ah ouais.
Puis il écoute qu'il m'écrive. Qui m'écrivent pour m'offrir un rôle dans son film. J'étais bien heureux de ça, mettons. J'étais super impressionné. Ouais. Ouais.
C'est hot. Il t'a écrit à toi personnellement?
Non, je pense qu'il avait écrit à mon agente, Elena, avec qui lui a travaillé aussi quand il était plus jeune.
Puis là, t'es encore avec cette agente-là.
Ouais, moi toujours.
Est-ce que ça a été depuis le début? Quand tu parles de l'agence Kiwi, c'était pas elle?
Non. J'ai switché par la suite. Elena, en fait, était une amie à mon père. Je pense qu'on est allé au cégep ensemble.
Okay.
Puis à un moment donné, on a décidé de tout simplement changer de direction. Puis Elena, elle nous a créé les bras grands ouverts, ma soeur et moi. Puis,
c'est hot, ça.
Mais ça fait à peu près 10 ans que j'étais avec elle, je pense.
C'est hot. Je pense que d'avoir une relation avec un agent ou une agente avec qui tu peux faire 100% confiance, c'est tellement nécessaire.
Super important, la transparence. Ouais. C'est une équipe, je pense, un peu. Tu sais, c'est du...
Ouais.
Faut que tu aies du teamwork qui soit constant. Puis ouais, la communication aussi, c'est super important.
Ouais, vraiment. Nous, tu sais, ma blonde et moi, on a un agent qui marche avec nous pour plusieurs dossiers. Là. Puis tu sais, quand on parle d'un projet, mettons, on parle au « on » en l'incluant. Là. Parce qu'il fait partie de ça. T'sais. Si on a de l'argent à débourser pour un investissement, il va le mettre avec nous autres. Là, okay. Parce que c'est comme vraiment... Puis, tu sais, on sait que on n'a pas besoin de double-checker ce que lui prend comme décision, mettons. Là,
pas de confiance.
Ouais, c'est ça, ce qui est une bonne affaire, parce que sinon, tu t'en sors pas. Là.
Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble?
Ça va faire bientôt un an, je pense. Okay. Ouais, ça va faire un an.
Ça s'est établi vite quand même de voir cette.
Ben oui, c'est ça, exact. Mais probablement qu'on serait amis, là, mettons. On est amis, mais probablement qu'on serait capable d'être amis sans maintenant. Cette relation-là. Ça, ouais. Mais ça, c'est nécessaire, je pense. Puis ça t'enlève un poids, là. Tu sais, toi, tu me dis, tu sais, fais juste écrire à elle, tu l'écris en DM, tu me dis, ouais, ça va me faire plaisir, mais écris-y à elle pour gérer ça.
Ouais. Mm-hmm.
Puis ça enlève, man, une charge de travail énorme.
Ouais, ouais.
Ça te permet de te concentrer sur ce que toi, tu veux faire pour vrai.
Exact, exact. Ouais. Puis ça évite aussi des confusions, ça peut éviter des problèmes, des mauvaises adresses ou des mauvaises heures ou peu importe. Moi, des fois, genre des journées qui sont super chargées, fait que j'ai pas nécessairement le temps de vérifier ou peu importe.
Ouais, c'est ça.
Moi, ça va toujours être avec elle que je vais parler, puis c'est possible. Ouais.
Soit là à telle heure avec telle affaire.
Ouais, puis tu sais, des fois, j'ai plus de temps ou mettons, il y a des gens que je connais super bien qui me demandent pour un truc, peu importe, comme mon ami Brandon Saint-Jacques qui fait son web-série le permis probatoire, parce qu'il reçoit des gens en voiture, puis les interviews, puis... Mm-hmm. Puis je me suis vite lié d'amitié avec Brandon, puis j'ai pas demandé de passer nécessairement par mon agent pour organiser ça. T'sais, j'ai fait qu'il texte moi telle journée, on va s'arranger.
Ça te laisse quand même de la liberté à ta façon.
Ouais. Exact.
Ouais. C'est hot. C'est vraiment c'est un essentiel, surtout pour quelqu'un qui œuvre dans le domaine artistique, parce que tu veux te concentrer à faire... Là, je te parle à toi, je ne parle pas nécessairement de mon exemple à moi, mais c'est que toi, j'imagine que tu veux te concentrer à faire la meilleure qualité de projet possible chaque fois que tu t'embarques dans quelque chose. Là, parce que tu ne serais pas rendu où est-ce que tu t'es rendu si ta barre était basse. Là.
Mm-hmm.
Fait que là, tu as comme ta barre haute qui te permet à toi de te concentrer sur ça.
Oui.
Puis d'aller de l'avant vers des trucs sans. Tu sais, la paperasse, mais on en parlait l'autre fois. Là. La paperasse, c'est là, c'est une marde, man.
Passer ces journées à répondre à des mails, c'est la chose la plus anti-créative.
Ça va être lourd, hein, Chris. C'est toute la paperasse qui vient avec ça. Puis, je suis d'accord. C'est pour ça que si on est capable de trouver du monde qui peut travailler avec nous, puis là, déléguer un peu de ça, puis nous se concentrer sur créer, c'est ça l'idéal, je pense.
Mais oui, vraiment.
C'est Ali Primo, justement, qui m'avait donné ce conseil-là rapidement en sortant d'Occupation Double. Il m'a dit, man, trouve-toi un agent que tu vas truster, puis le 15 à 20% qu'il va prendre, il va te le ramener en double. C'est rien, là, genre ça compte pas. Là, ça devrait pas être dans l'équation de dire « Ah non, là, moi, je vais faire 20% de plus. » Ouais, mais premièrement, il y a des affaires que tu feras pas parce que tu ne reaches pas nécessairement.
Mm-hmm.
Deuxièmement, toi, j'imagine que si je t'écris à toi, je te fais « Hey, est-ce que tu veux faire partie de mon projet? Quels sont tes tarifs? »
Mm-hmm.
Toi, parler, mettre une valeur c'est de la marque.
Je sais pas, puis je sais pas non plus nécessairement comment évaluer un projet de telle envergure, qu'est-ce que ça vaut,
tu veux pas être le gars qui propose un prix, puis là, c'est, mais là, c'est cher, mais je sais pas quoi te dire, man.
C'est parce qu'en cinéma aussi, puis en télévision, c'est pas comme un montant fixe, t'as des droits de suite, t'as des ci, t'as des ci, t'as des ça, puis... Ça peut être vraiment compliqué, là. C'est une job. C'est vraiment une job à part, là.
Mais est-ce que, question, puis sois libre de répondre ou non, là, mais les cachets, est-ce que c'est négocié, ça, ou c'est tel cachet pour tel film, that's it, puis oui ou non, genre?
Non, ça se négocie.
Ça se négocie,
ça dépend.
T'as comme un minimum agent, UDA, non, mais après ça,
tu
négocies.
Exactement, ouais.
Je comprends.
Le fameux minimum UDA, là.
Qui est pas si mal, je pense, quand même. C'est ça qui est bon. Là.
Moi, sur le film de Pascal, j'ai fait quelques petites scènes. Puis il dit, tu vas être payé sur le cachet UDA. Je fais, man, Pascal, j'aurais fait ça gratuitement, puis je t'aurais même amené du café sur le plateau.
Ouais, c'est ça.
C'est le frère de Dom, il est réalisateur.
OK. Ouais.
Puis il y a un film, prochainement, tu peux en parler.
Ouais, mais dans le fond, peut-être que tu sais qui s'appelle Pascal Plante. C'est lui qui a réalisé le film Les Faux Tatouages. Rosemarie Perrault joue là-dedans.
Je l'ai vu. Super, ouais, j'ai vraiment aimé ça avec Anthony Terrien aussi.
Exact,
c'est ça.
Cool, ouais, mais merci. Merci en son nom.
Ben merci, c'est en mon sang.
Je prends tout le crédit. Puis il tourne un autre film cet été qui se passe dans l'univers de la natation, dans le fond.
C'est vrai.
Ouais.
Ouais.
Comment ça s'appelle?
Ça va s'appeler.
Nadia Butterfly.
Peux-tu en parler? Je pense que oui.
Je pense qu'il a fait des demandes dessus.
Ouais, Dans le fond, le film s'appelle Nadia Butterfly. Puis il y a quelques acteurs dans le film, mais les personnages principaux, c'est des non-acteurs. C'est des.
Non,
des...
moi. Moi, je suis pas un personnage principal, mais je suis un non-acteur qui joue mais dans le film.
C'est ça, c'est des vraies nageuses de niveau olympique, là, tu sais. Ouais. Qui est allé chercher, qui a quand même auditionné, les a sélectionnés, sauf que c'est ça. C'est vraiment des nageuses qui ont un naturel à la caméra, mettons.
Ouais.
Fait que c'est ça, il tourne cet été, il va aller faire des scènes à Tokyo parce que ça se passe aux Olympiques de Tokyo de 2020.
OK. Wow. Beau
grosse affaire. Puis ouais. il y a eu full sub. Là, fait que son premier film, il y avait quelques subs, mais c'était vraiment micro-budget. Puis là, c'est la grosse affaire. Là, fait que c'est bien excitant.
Très cool.
Fait que ouais, c'est ça. C'est,
travailles-tu là-dessus avec lui, toi?
Non.
Je suis un peu de
ben, tu sais, ouais, c'est ça. Mais, on travaille souvent ensemble pour des projets vidéo, mettons que j'ai besoin justement de... Tu sais, avec ma blonde, je fais de la musique, fait que quelqu'un a besoin d'un vidéaste pour faire l'affaire, ben, c'est toujours mon frère. Là.
Très cool.
Mais sinon, son film, non, c'est ça, lui... Il a son équipe, puis ça roule bien, cette affaire.
C'est cool, c'est hot. Puis, en tout cas, c'est ça, moi, j'ai un petit rôle là-dedans. Je joue mon rôle dans le scénario, c'est... Nageur homme francophone numéro 1.
Nice.
J'ai quelques phrases.
Sur ta page IMDB, ça va être attendu.
Ça va être hot,
mais
ouais, c'est ça, exact. De mon rêve de devenir acteur. Ouais. T'es sur quel projet là, en ce moment?
J'ai rappé sur. Rappé pas comme du rap cap.
J'ai rappé sur le dernier de Corias.
On a rappé sur un film qui s'appelle Death of a Ladies Man,
okay.
Un scénario de Matt Bissonnette qui était quand même assez proche de Leonard Cohen. C'est un gars, un Montréalais anglophone qui maintenant habite à Los Angeles.
Okay.
Puis il connaissait Leonard Cohen, je pense qu'il avait rencontré sa fille peut-être. En tout cas, peu importe. Puis là, finalement, ils se sont rencontrés, ils ont lié un peu d'amitié et tout. Puis il a fait un documentaire, un petit documentaire, je pense, sur lui, mais comme un truc étudiant un peu. Puis, il a commencé à écrire ce scénario-là, Death of a Ladies Man, que ça va faire, je pense, au-dessus de 6 ans là, qu'il est écrit le scénario. Ouais. Puis, Leonard Cohen a beaucoup, beaucoup apprécié, je pense, ce scénario-là.
Il l'a lu, ah ouais?
Il l'a lu, il a beaucoup aimé ça. Puis, il a libéré tous ses droits de chansons pour le mettre dans le scénario, ouais. Avant qu'il décède. Puis,
t'imagines, ça vaut cher, ça.
Hey, man, ça va pas.
Puis moi, Matt, il m'avait approché il y a à peu près 4 ans, je pense, pour ça. Okay. 3-4 ans. Pour faire dans le fond, le scénario, c'est inspirer des œuvres de Leonard Cohen, puis on suit un prof de poésie à l'université qui a dans la cinquantaine à peu près 2 enfants, une fille et un garçon, et son ex-femme avec qui il a eu ces 2 enfants-là, qui est une Montréalaise. Donc un peu comme Leonard Cohen, puis moi je fais le garçon du rôle principal qui est joué par l'acteur irlandais Gabriel Byrne.
Okay.
Qui a fait The Usual Suspect.
Ouais,
très cool.
C'est qui dans The Usual Suspect? Qui est l'Irlandais dans ce film?
Je pourrais plus dire.
Ça fait longtemps que j'ai vu ça.
Je ne sais plus, c'est vraiment longtemps que je l'ai vu.
C'est sûr que je vois sa face puis je sais qui.
On prend une photo.
Trop vu souvent The Usual Suspect.
Puis c'est ça, fait que dans le fond, moi, j'étais un joueur d'hockey là-dedans, je fais son garçon. Puis j'ai comme 8 jours de tournage à peu près là. Ça, puis on a fini ça il y a comme quelques semaines.
Projet, là.
Ouais, c'est cool. Je pense que ça va être le fun. Puis à la fin de cette année-ci, il y a le film Gut Instinct qui devrait sortir, sur lequel j'ai travaillé l'année passée. Mm. Ça fait déjà un an là, qu'on a fini.
Avec Josh Hartnett.
Josh Hartnett,
c'est ça, j'ai vu. Ouais.
C'est malade. Ah ouais, je sais exactement c'est qui.
Hey, Josh Hartnett, c'est légendaire quand même. Là, ce gars-là, man, début 2000, là, il était au top. Là.
Ouais.
Mais oui.
Son film, Lucky Number 11 avec
Lucky Number 11, c'était malade.
Morgan Freeman.
40 jours, 40 nuits.
C'est 40 jours, 40 nuits, c'était genre, fallait pas qu'il vienne.
Fallait
pas qu'il vienne 40 jours, 40 nuits. T'as pas vu ça?
C'est genre une comédie romantique. Là, c'est, je pense que c'est genre vraiment là, 2000, 2001.
C'est avec la fille qui joue dans Le Chevalier avec Heath Ledger. Là. C'est elle qui fait comme son intérêt amoureux. Là.
Puis comme il n'y a pas le droit de, c'est ça, pas le droit de venir, dans le fond, pendant 40 jours, 40 nuits.
Puis là, ses amis, ils le mettent dans les pires situations. Parce que ses amis ont comme parié que lui, il allait pas être capable. Fait que là, ils le mettent dans les pires situations.
Je pense que c'est un peu ce film-là qui est devenu comme le sex symbole.
Le sex symbole, ouais. Je pense que Josh, il a eu un... Parce que moi, j'étais un peu comme intimidé de le rencontrer au début, puis de jouer avec lui. La première répète qu'on a eue ensemble, c'était à Bangkok, parce qu'on commençait la partie du tournage là-bas. Puis... On a une répète avec Daniel Robbie, le réalisateur et auteur du film, et Josh. Puis là, moi, je connaissais pas encore tout à fait mon texte à ce moment-là pour ces scènes-là. Puis je me disais, oh, fuck, est-ce que lui va le connaître, genre, par cœur, super professionnel. Puis moi, je vais avoir la cave devant lui pour faire, Chris, c'est qui, ce kid?
Ouais.
Puis finalement, c'est super bien écrit.
Finalement,
c'est
pas son texte. C'est sûrement, il était vraiment mauvais.
Fait dans le sens que finalement.
Il connaissait une ligne, ça avait pas le nom de son personnage.
Tu sais, genre, c'était vraiment relax, comme répète, là. Puis
cool.
C'était, ouais, ça s'est vite comme briser la glace entre deux. Puis, puis c'est ça, après ça, il est comme, de ce que j'ai compris en jasant un peu avec lui, il a comme eu un, je pense, des trucs qui sont passés avec soit des agents ou des gens du milieu là-bas à Los Angeles. Puis il a quand même décidé de sortir un peu de tout ce monde-là, du star system qui, avec lequel il ne connecte pas pantoute, je pense. Puis il est, comme, il est parti, il est sorti d'LA, il est allé vivre ailleurs avec sa femme. Puis il a eu un enfant récemment, puis je pense qu'il y en a deux. Puis c'est comme un peu déconnecté de tout ça. Ouais. Fait qu'il est zéro star system.
Vraiment, c'est pour ça qu'on l'a moins vu.
Oui, je pense que c'est pour ça que là, il a comme moins.
Il a un peu disparu parce que. C'est ça, c'était comme lui et Ashton Kutcher. Là. Les deux, c'était comme les deux, les deux hot. Là.
Il avait été choisi pour faire Superman, Josh Arnett.
Ah ouais.
Puis il a comme refusé, puis c'est ça qui a fait en sorte qu'il y a des gens qui l'ont comme boycotté, ou je sais pas trop.
Ok.
C'est bien flou,
tu
là.
Tu peux imaginer que ça doit être un esti de domaine, de milieu lourd, puis un peu malsain, des fois, là. À Hollywood, là, mais.
À Hollywood, ça, je sais pas. Je connais, je veux dire, j'ai un manager là-bas, fait que je commence à comme. Gager un peu c'est quoi. Mais j'imagine que oui, comme dans n'importe quel domaine un peu aussi. Là,
ouais.
Parce que t'as tout le temps du monde qui peut être crispant lourd puis mal intentionné, mais.
Ou qu'il y a beaucoup d'argent en jeu.
C'est qu'il y a beaucoup d'argent en jeu puis de réputation à garder puis de bons choix à faire. Qu'est-ce qui est bon pour ton image, qu'est-ce qui est pas bon.
Exact.
Fait que, ouais, effectivement, ça a l'air un peu intense des fois là-bas.
Ouais. Mais toi, tu commences à développer, tu veux un peu. En fait, tu veux ta carrière s'en aller par là.
En fait, j'aime avoir l'opportunité de voyager en travaillant, ça, je trouve ça fou. Puis j'adore travailler au Québec. Les gens ici sont tellement terre à terre. Puis moi, je me lie vite d'amitié avec les gens sur les plateaux. Puis ça fait en sorte que je travaille encore mieux, je pense. Puis je revois des gens avec qui j'ai travaillé dans le passé aussi, qui m'ont comme un peu même, si on veut, mentoré, tu sais, autant des comédiens que des gens derrière la caméra. Puis ça, j'aime ça, retravailler avec eux, les recroiser au Québec et tout. Mais c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui a envie d'aller aux États-Unis, voir c'est comment travailler sur un set là-bas, essayer de travailler en anglais aussi, puis briser un peu ces barrières-là, de briser les douanes, si on veut, là, au niveau de la création cinématographique.
C'est cool. Puis, tu sais, de plus en plus, on voit des Québécois qui le font. Là.
On a reçu ce finaliste une couple de semaines ici.
Ça fonctionne super bien là-bas, je pense.
Puis après ça, tu sais, on peut regarder juste toutes les réals.
C'est
les réals québécois qui ont les clés d'Hollywood maintenant. Là, Jean-Marc Vallée, Denis
Villeneuve. Directeur photo aussi au Québec. Des crises de bon, même, qui travaillent sur beaucoup de projets. Puis on s'en rend pas nécessairement compte, mais c'est des Québécois. Puis,
C'est super cool. J'écoutais en entrevue Colin Farrell qui parlait de. Justement, on parlait d'Hollywood puis comment ça peut être un milieu qui est rough. Puis lui, il disait son premier film, son cachet était 200 000 $.
Okay.
Puis son deuxième film, c'était genre 3,8 millions.
Hey, yeah.
Tu sais, ça a comme explosé ses affaires
c'est
en un
C'est qui son
film.
Agent, lui?
Mais puis, ça a comme explosé quand il est arrivé à Hollywood puis il était jeune. Puis après ça, vite après, il a fait le film Miami Heat.
Okay.
Puis il dit, je me rappelle pas du set. Je me rappelle pas du tournage de ce film-là. J'étais complètement défoncé pendant tout le temps. Ouais, puis là, il a vécu de même pendant comme 3 ans.
Défoncé tout le long du film.
Ouais, genre, il buvait, man. Il était sa drogue, il était sa poudre. Fait qu'il se rappelle pas de son tournage de Miami Heat. Puis quand il en parle, il est pas genre, oh ouais, man, c'était les bonnes années, j'étais défoncé. Il est comme, man, j'allais pas bien, là. Puis il dit, tu sais, j'arrive dans un milieu, je suis jeune, je suis good looking, tout le monde veut, il dit, un piece of me, fait que tout le monde veut
qu'il. Ce que tu fais pour, t'as tout ce qu'il faut pour réussir.
Ouais, c'est ça. Puis là, tout le monde veut que je sois à telle partie, à telle place, puis là, amener, tu te ramasses, puis t'as pas ce qu'il faut pour gérer ça. Puis là, il dit, tu l'échappes complètement.
C'est sûr.
Puis lui, c'est pour ça qu'après ça, il est comme disparu d'Hollywood, un peu comme on parlait de Josh Hartnett. Il est disparu d'Hollywood. Il a commencé à faire des films indépendants irlandais, parce que lui, c'est un Irlandais.
Okay.
Il est comme retourné chez eux, il a fait une couple de films indépendants.
Groundé, genre,
puis là, il a recommencé à faire une couple de films ici à gauche, des blockbusters.
C'est sûr que quand ton cachet passe de 200 000 à 3,8 millions, t'as dit?
Ben, c'est quelque chose comme ça, là, à peu près. Ouais, je veux pas dire des chiffres.
C'est sûr que l'ampleur de ce projet-là, j'ai l'impression que vient avec le cachet, tu sais, dans le
ouais,
sens
ben
que
oui, c'est ça.
Pour qu'on te paye tel nombre de millions de dollars, c'est parce que tu vas avoir une visibilité incroyable,
exact.
Donc une pression plus forte de la part du public, des producteurs, whatever et tout. Fait que c'est sûr que ça, des fois, c'est un peu difficile de garder le cap, là, puis pas se perdre là-dedans. Hein.
Tu sais, mettons qu'on prend ton exemple à plus petite échelle, là. Mm-hmm. Tu sais, quand Mommy arrive, là, puis là, c'est comme, OK, jour au lendemain, je passe d'un acteur qui a de la job, qui travaille, à un acteur qui est juste
qui s'en va à Cannes, puis qui
partout,
reçoit des prix.
Là,
de...
ouais, ouais. Ça, c'est ouais. comment tu vis ça? Tu sais, comment tu vis ça? Comment c'est fait ce passage-là? Parce que je sais que ça doit être étourdissant, j'ai l'impression.
Ouais, totalement. Ça s'est fait bien, j'ai envie de dire, très bien. J'ai trouvé ça difficile à certains moments parce que, tu sais, une fois que t'as comme, mettons que j'ai reach ce peak-là avec Mommy,
ouais.
avec ma performance aussi dans le film et tout.
Comment tu
après ça,
là,
moi,
là,
c'est comme...
Ton follow-up sera
comment je fais
ça,
pour
là.
Faire mieux, tu sais, ouais. qu'est-ce que je fais pour... C'est comme, est-ce qu'à partir de ce projet-là, les gens vont toujours faire, bon, mais il était écœurant là-dedans, mais comme, il continue à travailler encore un peu, mais il pourra jamais faire quelque chose d'aussi bon que ça. Mettons, fait que là, t'as ça qui vient spinner en tête, puis qui remet ta confiance en question. Puis aussi, juste de vivre à Cannes pendant une semaine, tu sais, si tu te promènes en voiture blindée, tu te fais...
Puis là-bas, vous étiez des rockstars, là, pour Mommy.
Déjà, Xavier était déjà très connu là-bas.
Ouais.
Puis là, avec ce film-là, les gens, de le revoir, ils étaient super contents. Ouais. Moi, ils ne savaient pas j'étais qui, mais une fois que le film a été vu là-bas, ah, c'est malade, là, les gens, ils sont fous. Là,
c'est, mais oui, oh, c'est probablement son meilleur film, d'ailleurs. Tous ses films sont bons,
c'est
mais
ce
celui-là...
C'est que beaucoup de personnes disent. Ouais,
celui-là
ouais,
a quelque chose de spécial, vraiment. T'sais.
Puis...
Vous avez eu une stand-up ovation de genre... 12 minutes.
Un standing ovation de 12 minutes dans le festival.
En
plus,
là, c'est flou dans
ah ouais?
Ben ouais, ça fait un petit bout quand même. Ça doit faire déjà 4-5 ans.
Ouais.
Mais ouais, c'est spécial. Là, c'est, ouais. Puis c'est ça, après ça, tu vis tout ce buzz-là où est-ce que tous les jours, tu te fais dire au moins 10 fois que les gens aiment ton travail, aiment ce
ouais.
que tu fais et tout. On te félicite. Après ça, tu sors le soir, tu fais la fête, du plaisir, tu te réveilles le lendemain, entrevue encore, tu manges super bien, tu bois gratuitement. Puis après ça, tu reviens à Montréal. Moi, maintenant, je suis revenu à Montréal après. Puis après ça, c'est comme, OK, c'est quoi, what's next?
Qu'est-ce qui se passe, là?
Cannes, là, c'est comme l'objectif de tellement de réalisateurs dans leur vie, par exemple, ou d'acteurs. Puis là, moi, on me l'a donné à 16 ans. J'avais 16 ans quand
c'est
je suis là-bas. Puis là, je reviens à Montréal après, puis je suis comme, aïe, aïe, OK. Wow, OK, c'est comme... Ça me manque déjà, là. Déjà,
ouais.
j'ai envie de revivre ça. Puis je sais pas si je vais le revivre une autre fois dans ma vie. J'en ai aucune idée, mais... Fait que, tu sais, c'est juste de comme faire... All right, merci pour ça. Maintenant, il faut que je m'en débarrasse. Puis comme, je passe à autre chose. Parce que si je reste pogné là-dedans, c'est pas, ça peut être très négatif aussi, je pense.
C'est clair. Mais encore là, par exemple, une carrière, c'est long, man. Il peut tellement,
ben oui, ben oui,
tu peux tellement avoir un million de beaux rôles encore là,
ah, ben
devant
oui,
toi.
Solide, ouais,
mais
merci.
Merci. non, mais tu sais, c'est ça. De vivre ça à 16 ans, c'est extraordinaire.
C'est
parce que...
fou. J'étais bien entouré aussi. Je pense que ça peut être super délicat pour un enfant à un certain âge, en bas d'un certain âge, de vivre des expériences comme ça. Mais j'ai été super bien entouré. Tout au long de ma carrière avant d'arriver là et là-bas aussi avec les gens qui nous entouraient. Fait que ça a été un gros plus, je pense. Ouais.
Ça doit être tough dans tous les milieux artistiques d'atteindre un aussi haut sommet que ça. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le raisonnement pour te dire, OK, je vais faire de quoi, sachant probablement pertinemment que ça sera pas à ce niveau-là, ça ne sera pas reçu de la même façon. Je pense il y a plusieurs... on en parlait avec Patrick Sénécal de Stéphane Larue. Là. Larue qui est un auteur qui fait un livre qui s'appelle Le Plongeur. Son premier roman, c'est un succès phénoménal au Québec. Tout le monde est bandé sur Le Plongeur. Tout le monde en parle dans toutes les cours de littérature. On parle du Plongeur, tout le monde capote. Puis là, Stéphane Larue, qui n'était pas un auteur avant ce livre-là, qui était un barman, qui travaillait en restauration, qui a écrit ce livre-là. Puis là, tout le monde est comme, OK, man. Ton deuxième, c'est quand qu'il arrive, puis là, je sais pas par où le prendre, man, le deuxième.
Ouais.
Comment tu veux que dans ma tête, pertinemment, je sache que, tu sais, si c'est reçu mieux que Le Plongeur, man, t'es dans zone en crise,
ouais,
tu sais.
Ouais.
Mais c'est, tu sais, les chances que ça arrive.
Mais tu as envie d'en faire un deuxième?
Ouais, je pense qu'il est en train d'en écrire un. Ouais.
OK, cool.
Ouais. Mais tu sais, toi, comment t'as réussi à dire, OK, j'accepte ça, puis amener le prochain projet. Puis là, quand je dis ça, je dis, non, je dis pas, tu mettras pas ton 100% dans le projet, tu non, vas non, le mettre, tout, mais c'est tu sais de façon quand même cartésienne que si c'est reçu comme momie, ben, c'est parce que c'est une scène.
Mettons, PeeWee 3D que j'ai fait avant momie, puis là, junior majeur, la suite qui est arrivée après momie, tu sais, je savais très bien en embarquant sur junior majeur que c'était pas le genre de film qui va rechercher le même
tu
monde
pas
qui
pas
voyage, c'est ça. Tu sais, moi, très bien évidemment, tu sais, mais j'ai quand même eu un plaisir énorme à faire junior majeur, puis je voulais quand même le faire sachant que ça allait pas avoir ça. Puis je pense que c'est ça, à ce moment-là, je me suis posé la question, en fait, pourquoi je fais des films? Est-ce que c'est pour me rendre à Cannes comme ça, puis c'est ça que je veux? Puis là, mon objectif, les prochaines fois que j'embarque sur les projets, c'est juste pour revivre ce que j'ai vécu avec mamie, ou au contraire, moi, là, j'ai réalisé que pourquoi je faisais des films, c'est parce que sur l'ambiance, sur le plateau de tournage, c'est ça qui me fait triper, moi. De travailler avec une équipe de 30 personnes et plus, puis ou moins, puis que tout le monde a son rôle pour créer un produit comme ça, qui part d'une idée qui est sur papier, qui ensuite on arrive à le mettre à l'écran pour le partager à tout le monde, puis faire vivre des émotions aux gens. Moi, c'est vraiment ça que j'ai compris que je voulais faire. Puis des fois, tu tombes sur des projets qui sont moins agréables que d'autres, ou des fois, tu vas tomber sur un projet qui est encore plus agréable que tu pensais, puis qui va sortir encore mieux que tu pensais. Puis moi, je me suis dit, c'est ça. Je me suis posé la question, pourquoi je fais ça? Puis c'est vraiment pour être sûr des plateaux de tournage. En fait, c'est ça que j'aime.
C'est hot.
C'est vraiment ça, ouais, ouais. Puis tu sais, des fois, il y a des scénarios que je vais lire que il y a plein d'affaires que je changerais, que je pense que c'est pas super, mais moi, ce que ça m'a apporté à travailler sur ce film-là, c'était malade. J'ai rencontré telle personne qui sont des super bons amis à moi aujourd'hui. J'ai rencontré tel réal qui, lui, peut-être que dans 5 ans, il va refaire un film. Puis comme on a travaillé ensemble, il va penser à moi, tu sais, on sait jamais.
C'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu travailles pour que ça engendre d'autres choses. Là. Si tu attends le rôle parfait,
comme les auditions,
tu vas attendre longtemps. Là.
Les gens ils vont faire des auditions, puis ils vont être déçus parce que ça n'a pas fonctionné. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de faire une audition pour un projet, ça n'a pas marché. Puis le gars qui m'auditionnait, ben lui, il était sur un autre projet, puis il a fait « Écoute, ce que tu as fait là, ça ne marche pas pour ça, mais moi, je t'offre le rôle pour ça, mettons, parce que je t'ai vu là, faire l'audition et tout, puis ça marche là, puis c'est toi que je veux. »
Il y a tellement d'autres facteurs qui en ligne de compte, c'est pas juste le talent qui fait pas que t'as pas le rôle, c'est vraiment une affaire de casting souvent, une affaire de look, d'image.
Des fois, c'est l'autre personne qu'ils ont choisi en premier, ben c'est autour de cette personne-là qu'il faut construire le reste du casting. Okay. C'est dommage parce que t'es super bon, mais t'as zéro l'air de sa sœur, mettons. Tu comprends ce que je veux dire? C'est souvent ça,
C'est fou, ça.
Je comprends. Puis quand t'as reçu Mommy puis t'avais ça entre les mains, j'imagine que tu lis ça puis tu sais, OK, j'ai de l'art entre les mains, là.
Ouais,
j'imagine, hein?
J'ai un flash de... J'étais dans un parc pas trop loin de chez ma mère où j'habitais à l'époque. Puis Xavier, dans son scénario de Mommy, puis dans la majorité de ses scénarios aussi, il y a souvent des chansons déjà en tête qu'il veut utiliser pour cette séquence-là, par exemple. Puis il écrit. Il dit telle chanson, tel artiste commence à jouer. Puis là, t'as comme la grosse didascalie qui explique un peu qu'est-ce qu'on voit. Puis... Puis je les mettais dans mon cellulaire, puis je les écoutais. Puis tu sais, t'as une super bonne trame sonore dans Mommy. Puis là, je les écoutais, puis j'étais couché dans le parc en lisant ça. Puis j'étais tellement excité là, de faire ça. Ça
tu peux tellement longtemps T'imaginer la scène avec la musique, puis tout que ça va être. Puis
Quand il me dit, OK, là, il y a une scène aussi où est-ce que, il est en train d'écrire le scénario, puis on s'en parlait, puis il me disait, puis là, en tête, j'ai une scène où est-ce qu'il y a un taxi, t'es avec ta mère, puis là, ils se pognent ensemble, puis tu t'envoies chier le taxi, mais t'es super raciste, puis tu craches sur le taxi, tu montes sur le capot, puis moi, il me disait ça, puis j'étais là, à quoi ça va ressembler, man? Puis en face, il y a une autre scène dans un bar où est-ce qu'il y a des groupes de machos, là, qui rient de toi un peu et tout, blablabla, puis là, tu prends une bouteille de bière, t'as cassé la table, puis t'essaies de te battre avec, genre, puis j'étais comme... C'est un moisant, man, tu es malade, là, je vais en faire...
C'est comme le rôle parfait, parce que t'as l'éventail des émotions au complet, tu passes partout, tu sais, c'est vraiment... T'es ultra attachant, tu sais, c'est vraiment... C'est pas vrai.
Ah non,
ça doit être, pour un acteur, du bonbon à savoir.
Ouais, solide. Solide. Puis après ça, de te jumeler à des actrices comme Suzanne Clément puis Anne Dorval, c'est incroyable. Là. Ces deux filles-là sont tellement fines puis sont tellement en amour avec le travail qu'ils font. Puis c'est ça qui est le fun, c'est de rencontrer d'autres personnes qui sont passionnées par ça aussi. Tu te retrouves plein de personnes qui sont passionnées par ce milieu-là. Puis on travaille ensemble pour faire le mieux qu'on peut.
Xavier, c'est le passionné des passionnés. Là, ce que j'ai entendu de lui, c'est que... T'es un travaillant de sans relâche.
Puis c'est ça, il est passionné, puis je le trouve assidu aussi.
Ouais.
Tu sais, il lit beaucoup, il va faire des recherches. Il va pas juste comme démontrer sa passion de faire du cinéma, il va vraiment comme c'est un calé là, tu sais, il va regarder et re-regarder certains films, il va aller lire sur les personnes qui l'ont écrit, lire sur les acteurs et tout, extrêmement cultivé là-dedans.
Mm-hmm.
J'ai beaucoup de respect pour ça, moi, je trouve ça vraiment impressionnant.
Ça paraît d'une certaine façon dans ses films, tu sais, le travail de pas nécessairement de recherche, mais juste de passion, de connaître son art.
Mm-hmm.
Tu sais, de connaître l'art dans lequel t'évolues, je pense que c'est capital, c'est nécessaire.
J'ai entendu que c'était un énorme cinéphile, ce gars-là.
Ouais, c'est ça.
J'ai tout vu,
ouais.
Là, tu sais. Il se tient à jour, puis... Non, vraiment, c'est ça. Ça transparaît dans ses films, puis... Tu sais, Mommy, bien que ça soit une situation extrême, tu sais, un cas extrême, mm-hmm. c'est quand même crédible, malgré ça, tu sais. Mm-hmm. Très crédible.
Ah oui, puis...
Tu y crois, t'embarques.
Puis, écoute, moi, j'ai eu des témoignages après ce film-là, des c'est gens sûr. Qui viennent voir des dames qui travaillent dans c'est des centres. C'est sûr. Puis il me disait, j'en ai trois des garçons comme ça avec qui je travaille. Puis c'est la première fois que je vois un film où est-ce que, sans être exactement nécessairement qu'est-ce qui se passe avec elle, disons, mais elle a dit, c'est la première fois que je vois un film où est-ce que je peux donner un exemple de ce que je vis moi au travail, mm-hmm. chaque jour, genre. Puis c'est difficile, là. C'est vraiment difficile, les gens ne comprennent pas tout le temps, mais là, tu sais, au moins j'ai un film que je peux leur montrer.
Ah oh, ouais, fait que le film devient un outil pédagogique.
Quasiment. Ben, quasiment, ouais. Oh, ouais, okay. Ouais. Puis, puis que des dames viennent me voir comme ça, puis disent la dose d'amour que je ressens quand je peux te parler là, puis voir ce que tu as fait dans le film, ça me fait tellement du bien. Elle me dit merci pour ça. Puis je suis comme ailleurs, tu sais. Je pense que c'est à ce moment-là aussi que j'ai réalisé que le cinéma peut tellement avoir un impact positif chez les gens.
Ben oui.
Puis. Ouais. Puis c'est devenir comme une référence un peu pédagogique, comme tu dis. La même chose avec une 54 aussi, une minute 54 de Ian Englund,
mm-hmm.
Qui était d'ailleurs le premier projet que j'ai fait directement après Mommy, qui traite de l'intimidation beaucoup, de l'homosexualité, du suicide aussi, qui sont trois sujets qui c'est un peu lourd quand même, puis ça peut être tabou des fois. Mais il y a des gens qui sont venus, qui m'ont écrit, des gens qui sont venus nous voir après pour nous dire à quel point... à cause de ce film-là, ben les trois gars qui l'écœuraient à l'école, ils ont arrêté parce qu'ils s'en rendaient même pas compte.
Mm.
Puis ils ont vu le film, puis ils ont fait « Aïe, aïe, ok, ouais, on fait ça, c'est nous, ça à quelqu'un à l'école. Ah ben là, on comprend, là. On comprend c'est quoi ton point de vue à toi, mettons, là-dedans. » Puis, tu sais, quand les gens viennent me dire ça, je trouve ça vraiment agréable de voir l'impact que ça peut avoir, d'être passionné par ça, puis que ça peut avoir un impact positif.
Eh oui, on en a parlé avec différents comédiens qui sont venus ici, Catherine Brunet, puis Rosemary, d'ailleurs.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, que le cinéma, c'est l'art de l'empathie, là, tu sais.
Ouais.
Justement, tu sais, tu te mets dans l'histoire, mais tu te mets à la place des personnages, tu comprends leur réalité, tu sais. Un personnage comme dans Mommy, c'est pas un personnage que... C'est un personnage que tu rencontres une fois, puis tu vas peut-être le détester, là, tu sais, puis
t'auras pas
de respect ou tu te mettras pas à sa place, ça serait pas de comprendre sa situation, mais quand tu vois un film de même, c'est... OK, le petit tannant, le petit Chris, là, ben, tu sais, il a... Il vit ses problèmes, puis tu sais, en tout cas, je sais pas comment m'exprimer, mais vous comprenez ce que je veux dire.
C'est d'avoir d'autres points de vue, tout simplement.
Exactement.
Puis moi, ça, ce que j'aime aussi, c'est d'essayer de l'appliquer dans la vie de tous les jours, tu sais. Tu vas rencontrer quelqu'un vite dans la rue, là, puis il va être super bête avec toi, mettons, là, puis il va t'ignorer même, mais tu sais, il sera pas correct, mettons, là. Puis toi, tu savais c'était qui, mais tu l'avais jamais rencontré avant, puis là, c'est comme, hey, telle personne, c'est-tu? Puis là, je l'ai rencontré, tabarnak, man, méchant, il était bête, puis tout, puis moi, j'en parlais aux gens, puis c'est ça que j'ai vécu avec toi, mettons, dans le jeu, ce qui est pas un vrai moment dans le mais mettons, je me base là-dessus. Après, c'est les gens qui vont être comme, OK, ben mon Dieu, c'est vraiment pas le gars que moi je connais et tout.
Ouais.
Puis, ben, tout, à ce moment-là, peut-être que tu venais de te faire percer tes tailleux de char ou
ça,
quelqu'un t'a envoyé chier ou tu sais pas, puis t'étais juste pas réceptif à parler à quelqu'un d'autre, tout simplement. Puis, moi, ça m'arrive des fois, il y a des gens qui vont me rencontrer dans la rue, puis je viens d'avoir une nouvelle de marde ou, tu sais, ça peut être n'importe quoi, là, puis je peux pas, c'est comme, j'ai vraiment besoin de. J'ai pas l'espace à parler à des gens en ce moment ou peu importe. Puis, c'est d'appliquer ça dans la vie de tous les jours, tu sais. De pas se baser sur des fractions de secondes comme ça, puis de pas juger, puis de rester juste comme. Un peu ouvert à plein de scénarios, tu sais. Ouais.
Hier, j'étais avec ma sœur, puis elle me racontait qu'elle voyait un gars puis qui jouait, il faisait un jeu, les deux, ils cherchaient du monde qu'ils connaissaient en commun sur Google. Puis là, ma sœur a comme dit, je vais te chercher sur Google. Puis là, le gars, il est devenu... Vraiment sérieux, il a fait non, fais pas ça.
C'est un jeu dangereux à jouer quand tu fais pas te faire chercher sur Google, par exemple.
Ouais, je sais, je comprends, mais. Fait que là, ma soeur a comme fait what the fuck. Puis là, elle me raconte ça. Elle dit, hey, il était weird, là. Puis là, il m'a dit, cherche-moi pas sur Google, s'il vous plaît. Puis là, ma soeur part. Je, elle a décidé.
Okay, le gars avec qui ta soeur était, elle a chercher lui sur Google.
Ouais, c'est ça. Puis lui, il est devenu super sérieux. Il a fait non, vas-y pas. Fait que là, ma soeur.
C'est sûr qu'elle y va, là.
Non, mais elle trouvait ça weird. Puis là, ma soeur a dit, tu sais, je trouve ça drôle de m'imaginer que c'est n'importe quoi, fait que je vais pas le googler. Sauf que moi, elle me dit ça. Puis elle me dit, le gars, il est devenu super weird, puis c'était vraiment bizarre, puis genre, elle comprenait pas trop, puis ça l'a mis off un peu. Moi, je vais googler le gars.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Puis là, ben, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est quelque chose de quand même sérieux, là. Tu sais, c'est une histoire de. En tout cas. On s'en parlera après. Je veux pas mettre ce gars-là dans...
Plutôt une histoire qui a spiné médiatiquement, genre.
Qui a spiné médiatiquement. Puis... on en a parlé, puis c'est triste, là. C'est une tragédie, là.
Okay.
Puis là, le gars, ça avait été... Si ma soeur avait googlé cette soirée-là, ça aurait ruiné la soirée complètement.
Je comprends.
Il serait allé dans une zone qu'il voulait pas parler. Il aurait été obligé de parler de quelque chose. Ça ne tentait pas pantoute.
C'est cool qu'elle ait respecté sa demande.
Ouais, c'est ça. Mais ouais. Puis là, ma soeur, elle comprenait pas, mais elle était comme fâchée, elle était off. Puis là, moi, j'ai dit... Écoute, Marie-Lou, c'était mieux pour tout le monde qu'il réagisse comme ça. Là.
Mais cette chose-là fait pas en sorte que ce gars-là il est non fréquentable.
Non, vraiment pas. Non, c'est ça. Fait que moi, j'ai dit, sa réaction, je la comprends vraiment maintenant que je sais pourquoi.
Ouais.
Ça revient un petit peu à ce que tu dis. C'est quand il y a une réaction fucked up de quelqu'un, c'est pas de le juger sur sa réaction-là seulement. Non,
ça part tout le temps de. Quand quelqu'un, justement, a une réaction. Un peu bizarre, tu sais, tu sens que oh, là, il est déclenché par quelque chose, peu importe, ça part de quelque part, ça part d'une vieille blessure ou whatever et tout.
Ouais.
Si quelqu'un, mettons, tu sais, j'accroche ton verre, puis ça splash partout sur la table,
tabarnak,
whatever.
Mon
là, tu pètes une quoi, tu pètes une coche,
puis c'est
quelque chose qui n'a pas vraiment d'allure, tu sais. Ben là, moi, je me dis, ok, ça tombait sur moi, mettons, parce que j'ai fait un accident, mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui n'a pas rapport avec moi. Ou si ça a rapport avec moi, ben parlons-en, mettons, ou whatever, mais. C'est souvent de pas tout le temps mettre la caméra sur nous autres puis la mettre sur les autres un peu. Puis,
Mais c'est vraiment une belle façon de vivre ta vie. Là.
Ah ouais, solide. Puis c'est parce que toi, tu te mets beaucoup moins de pression aussi, je pense.
Ouais.
À dire pourquoi il était comme ça avec moi, t'sais, pourquoi il m'aime pas, whatever et tout. Puis, moi, ça a été ça pendant longtemps avec les gens. J'avais un problème de quand je trouvais quelqu'un qui m'aimait pas ou je sentais qu'il donnait moins d'attention, whatever et tout. Ouais, j'essaie de comprendre pourquoi et tout, blablabla. Puis. Ça m'a drainé tellement d'énergie avec le temps. C'est fou.
Mmh. Quand tu as décidé d'arrêter de faire ça, tu n'avais plus cette espèce de pression.
Je travaille encore là-dessus des fois, là, mais ça a vraiment changé avec les années. Mais c'est qu'après, tu te dis, tu peux pas plaire à tout le monde. Tu peux juste pas. Puis au lieu de mettre de l'énergie là-dessus, mets de l'énergie sur toi, qui tu as envie d'être, sur quoi qu'est-ce que tu as envie d'entreprendre. Puis les gens qui aiment ça, puis qui sont passionnés par ça ou qui s'entendent bien avec toi, tu vas les attirer. Mmh. Involontairement, ils vont venir dans ta vie, ces gens-là, puis tu n'as pas besoin de faire de travail nécessairement à ce niveau-là ou peu importe.
Ouais. Je me rappelle plus, c'est quand qu'on disait ça, que le premier travail que tu as à faire est sur toi.
Mm-hmm.
Puis après ça, tes relations, si tes relations ne se réparent pas par le travail que tu fais sur toi, là, tu peux travailler sur la relation, mais le premier travail se fait sur toi. Là.
Solide.
Officiel.
Solide.
Ouais. Ça, c'est clair. C'est clair, tu sais, que ce soit dans tes amitiés, dans ton couple, ou s'il y a un problème... Première chose à faire l'examen de, c'est toi-même, là, je pense. Là, t'sais. Puis après ça, comme tu dis, t'sais, tu verras si à un moment donné, si ton partenaire a vraiment des problèmes.
Je me ferais tromper à répétition, mais c'est sûrement moi le problème. Là.
Ouais. Non, c'est ça, mais tu sais, quand mettons.
Mais ça peut partir de toi, tu sais, éventuellement. Là.
Ça peut.
Dans n'importe quelle situation. Là.
Ça peut vraiment, tu sais. Puis des fois, juste de changer une petite affaire de chez soi, ça peut crissement, genre, réparer des relations ou améliorer vraiment des trucs. Ouais. Tu sais, c'est pas quelle spirale tu prends, la positive, la négative.
Puis moi, les gens qui sont autour de moi, que j'aime beaucoup, puis que je pense qu'eux aussi même, je vais leur demander, je vais dire, tu sais, je sens que des fois, t'es peut-être un peu fermé ou je sens qu'il y a quelque chose, tu sais, je suis un hypersensible, je vais le sentir tout de suite si la personne est mal à l'aise par un événement du passé ou peu importe. Je vais te dire, t'as-tu envie qu'on en parle et tout? Puis là, je trouve que des fois, quand tu fais tel truc, j'aime moins ça et tout. OK, all right. C'est juste d'y amener de l'empathie à cette personne-là parce que justement, elle est déclenchée par quelque chose que tu fais peut-être. Fait que là, c'est juste d'en parler. Tu t'assois puis t'en parles là-dessus, sans jugement puis tout. Puis ce qui est bon aussi, c'est de souligner l'intention avant, tu sais. Moi, mon intention, c'est d'être comme super à l'aise avec toi puis qu'on ait une bonne amitié forte, bien construite. C'est ça, mon intention. Ben, t'es-tu temps qu'on trouve une façon pour que ça marche entre nous deux, tu sais, puis qu'on soit dans cette énergie-là. C'est mon intention, c'est de continuer à t'aimer avec toi parce que j'aime quand tu me donnes des livres pour aller à l'école ou whatever. Tu sais, c'est différent. Tu comprends ce que je veux dire?
C'est pas la même chose.
Tu te connectes avec ton intention. Tu sais, moi, mon intention, c'est d'être super bon chum avec toi parce que j'aime ce que tu fais puis je t'apprécie en crise.
Ouais.
Ben, là, si tu me dis que ça, par exemple, tu as de la difficulté avec moi, ben, travaillons-là pour qu'on puisse être capable d'être dans cette intention-là.
Ça, ça fait partie de la communication. Tu sais, la communication, c'est tellement essentiel à tout. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est sous-évalué dans les interactions humaines en ce moment.
Il y a des gens aussi qui, je pense, sont peut-être blessés par des trucs du passé ou des trucs qui sont arrivés, qui n'ont jamais pris le temps de soigner. Puis ça, ça va les suivre toute leur vie, je pense.
Ouais.
Si, j'ai l'impression qu'on parle « Ah non, je ne vais pas parler de ça, ça ne me tente pas et tout. » C'est comme « OK, peut-être pas avec moi ou peut-être pas là, mais moi, je pense que c'est inévitable de passer par ce processus-là si justement tu veux être dans quelque chose de plus harmonieux, tout simplement. Puis tu peux ne pas vouloir aussi, puis rester là-dedans. Puis c'est ton choix, puis ça t'appartient, puis c'est pas nécessairement mal. Mais moi, je pense que, ouais, quand mettons, tu as une relation avec ta blonde, ton chum, tes amis, peu importe, ta famille, puis ça va mal, puis tu as envie que ça aille mieux, ben ça vient, moi, je pense, de blessures du passé qu'il faut que tu ailles travailler, puis que tu ailles mettre le doigt dessus. Puis,
exact. Le déni, c'est une méthode facile puis et commune de dealer avec ça, puis qui est correct, puis que, tu sais, souvent, j'imagine que pendant un bout, ça peut être la seule option possible parce que soit c'est trop dur ou soit c'est impossible pour l'instant. Mais justement, dans le long terme, si tu viens jamais regratter ces bobos-là pour les réparer, c'est ça crée des...
Même physiquement, là, ça peut venir... moi, ça, j'ai eu l'impression dans ma vie d'avoir vécu des événements particuliers qui m'ont affecter le dos, par exemple. J'avais mal à tel spot dans le dos ou au ventre, tout simplement. Ou, tu sais, je pense vraiment qu'il y a une connexion entre toutes les émotions qu'on vit avec notre corps physique. Ouais.
C'est intéressant, ça.
Ouais, solide.
C'est intéressant. Puis, définitivement, le stress a un lien. Ça, c'est clair.
Ah ouais, ça, c'est sûr.
C'est définitif. Ça, c'est J'imagine sûr. Que le stress peut venir sous plusieurs formes. Tu sais, un stress émotionnel, ça reste un stress, là. T'sais, un stress de relation, de tristesse, de quelque chose qui est pesant sur toi, ça peut être un stress, puis ça peut avoir un lien.
Un événement traumatique, ça reste un stress
c'est ça, exact.
Constant, longtemps.
Exact. Puis ça, je suis d'accord que ça peut sûrement avoir un lien avec des troubles physiques à un certain moment.
Oui, solide.
Il y a eu un trend, il y a eu encore un trend qui dit, tout ce qui est toxique dans ta vie, élimine-le, puis tout ce qui est négatif dans ta vie, shut-le down, puis... Il y a malgré tout, je trouve, une distinction entre ce qui est toxique, ce qui est négatif ou problématique.
Mm-hmm.
Puis si les gens prennent le réflexe de juste tout bloquer les émotions négatives, puis les personnes qui croient être toxiques de leur entourage, sans essayer de comprendre
pourquoi
est-ce que c'est toxique, pourquoi est-ce que c'est nocif. Tu te ramasses, tu vieillis, puis tu te ramasses à jamais avoir confronté quelque chose de négatif, jamais avoir essayé de solutionner quelque chose de négatif. Puis là, je suis pas en train de dire il y a des relations clairement toxiques.
Ouais.
Mais
si tu n'arrives pas à voir pourquoi,
exact.
Je pense que non seulement, OK, tu l'auras pu, mais tu ne seras pas capable de repérer un autre genre de relation toxique comme ça qui va, parce que tu ne sais pas pourquoi, d'où ça vient. Fait qu'il y a des gens toxiques, il y en a partout dans le monde. Là. Puis juste à Montréal, autour de toi, dans ton entourage, peu importe, il y en a. Fait que je pense que si tu te débarrasses de lui, all right, OK, bien joué, tant mieux. T'sais, si ça, c'était toxique pour toi puis tu étais peu heureux là-dedans, parfait. Mais essaie de trouver pourquoi, parce que là, il y en a d'autres qui vont réapparaître à un moment donné puis tu ne sauras pas pourquoi. C'est de dans la source.
Ma belle-mère, elle appelle ça les antennes de boule de neige.
Les antennes de boule de neige.
Ouais, c'est, mettons, tu sais, l'effet boule de neige, c'est quand tu descends une courbe, mettons, la boule de neige, elle grossit puis elle devient inarrêtable. Puis les antennes de boule de neige, c'est ce qui te permet de voir quelque chose qui pourrait avoir l'effet d'une boule de neige, puis de juste le quitter avant, voir les signes avant-coureurs d'une relation toxique, mettons. Ah, j'ai déjà vécu ça par le passé, j'ai réalisé qu'est-ce qui me plaisait pas dans ça une fois que c'était fermé. Puis là, quand, mettons, que tu une relation amoureuse qui est finie, puis là, tu rencontres quelqu'un, puis là, cette personne-là fait quelque chose qui te rappelle quelque chose que tu sais que toi, tu seras pas capable de vivre avec, tu sais.
Amen, parle-en dès le début, moi, je dis, ta relation, mets ça au clair,
tu sais. Oui, c'est ça, parce que sinon, t'es dans la boule de neige, tu sais.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, les règles non écrites d'une relation s'écrivent vraiment au début, tu sais. « Ah, j'ai dit telle affaire, puis là, elle m'a fait une face que, ouais. comme elle n'a pas aimé ça. »
Bah, ça fait 6 mois que je l'ai dit, tu ne m'as rien dit, puis là, après 6 mois, je dis ça, puis comme,
ouais, c'est ça.
Là, j'ai plus le droit de le dire.
Ouais,
Il y a ça aussi, mais juste, tu sais, l'espèce de... Tu rencontres quelqu'un, puis là, il y a comme la période de... Les limites sont où? Ouais. Qu'est-ce que tu as le droit de dire? Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de dire? Puis là, à un moment donné, la dynamique s'installe, puis ça reste ça, puis des fois, ça va une pente descendante. Des gens qui ont des comportements, t'sais, mettons, t'sais, des abuseurs ou des batteurs de femmes, c'est pas la première journée que ça fait ça, là. Ça s'installe tranquillement, tranquillement. Puis au début, si t'es pas ultra attentif ou si tu sais pas reconnaître ces signes-là, des petites actions qui fait que tu t'en vas dans ce chemin-là, ben, tu t'apprends, t'sais. Sauf que si t'es déjà vu ou t'es connais, t'es reconnais, mais ben, rapidement, tu fais « Ah, oh, OK, ça, ce comportement-là, c'est une slippery slope, là, puis on s'en va. »
Ça fonctionnera pas avec moi. Ouais.
Exact. Avoir la force de dire ça, ça demande beaucoup de force, reconnaître ce que tu veux puis ce que tu veux pas, puis être capable de dire cette relation-là ou cette personne-là m'apporte pas ce que je veux dans la vie. C'est pour moi, parce que c'est excitant rencontrer une nouvelle personne, c'est excitant, les débuts de relation, puis la personne, tu peux la trouver bien belle ou bien. Mais d'être capable de dire non, OK, moi, ce que je veux dans la vie, c'est pas ça.
Ouais. C'est pas facile.
C'est pas facile.
Les gens nous entendraient en ce moment et diraient c'est bien cool là, qu'elles vous dites qu'ils font en parler tout, mais c'est tough, puis ils ont raison.
Mais
là.
Oui, mais c'est
tough, puis c'est zéro facile. Puis, mais je pense que c'est te dire est-ce que tu as envie que ça change? Est-ce que pour toi, fais-le pour toi. Là, si toi, t'es plus heureux là-dedans,
exact.
Là, je veux dire, fais-le pour toi. Sinon, je veux dire, c'est à toi, c'est ta responsabilité. Moi, je pense que tout le monde, ça. C'est leur responsabilité de qui avec qui ils se tiennent, de où ils sortent le soir. Si à chaque fois que je sors à telle place avec ces personnes-là, on est tout le temps dans la marde.
Ouais.
Puis là, j'étais cœuré, j'ai ça qui me suit. Hey, man, c'est plate, mais arrête de sortir avec eux autres. Il y en a plein d'autres personnes avec qui tu vas bien t'entendre. Là. Puis c'est d'avoir le courage d'en parler aussi juste avant. Tu sais, peut-être avec ces personnes-là, pour tel exemple de quand on sort à tel endroit, vous faites tout le temps ça. Moi, j'aime pas ça. Je tente de continuer à sortir avec vous, mais si vous continuez à faire ça, ben je viendrai pas la prochaine fois, tout simplement, ou peu importe. Puis tout le temps parler calmement, puis pas dans le jugement, puis sans faire de reproches aux autres non plus, juste te connecter sur comment toi tu te sens vraiment.
Ben,
vraiment
c'est ça, je pense, la clé, tu sais, c'est d'aborder tous les conflits ou les problèmes, pas en disant.
Ce que toi tu fais, mais toi, fait, moi je me
toi
sens.
Toi fais ça, mais quand toi tu fais ça, moi ça me fait me sentir comme ça.
Exact.
À partir de là, la décision te revient.
Exact.
Si tu veux continuer à agir de cette façon-là, en sachant, en connaissance de cause que moi je ressens comme ça, ben tu fais ça, puis moi ça me rend pas heureux, tu sais.
Ma blonde est derrière l'écran, puis elle arrive parce qu'elle me dit ça souvent. Puis, mais tu sais, l'autre côté de la médaille, des fois, c'est. Mettons que là,
on lave notre linge sale.
Non, mais des fois, tu sais, ma blonde, elle me dit, quand tu fais ça ou quand je dis ça, je me sens de même. Je dis, c'est tellement pas mon intention. Puis, mettons, t'as décodé certaines choses que j'ai pas dit.
Ça peut arriver aussi.
Excuse-moi de t'interrompre. Un truc qui est souvent est difficile à trancher, c'est que, par exemple, je vais te dire, OK, quand tu dis tel truc. Ben, j'aime pas ça, je me sens intimidé par toi, mettons, ou whatever. Mais c'est ce qu'on appelle intriqué. Fait que c'est une émotion que ça doit partir de. C'est comme si je te laisse l'opportunité de me rendre intimidé, ce qui est faux. Tu sais, c'est pas. Ça rentre dans une catégorie de mots qui est intriqué. Puis, puis c'est important de dissocier ces deux choses-là en communication. C'est super important, je pense. De justement, quand, mettons, toi, tu dis ça, ben, toi aussi. Tu décides que ça te fait sentir comme ça, ben une chose qui est sûre, c'est que ça t'appartient aussi. T'sais, c'est toi qui décides d'être là-dedans, mais de ne pas pointer la personne du doigt en disant « c'est toi qui me fais ressentir ces émotions-là, c'est moi qui choisis de me sentir comme ça d'abord ». Mais comment on peut trouver une façon pour justement éviter ça, tout simplement.
On peut-tu t'engager pour des sessions de thérapie? T'es vraiment bon.
Mais c'est ça qui est important, de séparer les deux. Puis il y a des gens qui sont encore bien meilleurs que moi pour...
Je vais vous les référer plus tard. Mais ça, tu sais, ce genre de conversation-là, c'est le genre de conversation que j'aurais vraiment aimé écouter plus tôt dans ma vie.
Ouais.
Entendre ça...
Tu sais quoi, moi, je pense que ça devrait être... Quelque chose qui est tout simplement appris dans les écoles, qui montre aux gens comment se. Comment
j'ai appris à coudre des bobettes
séparer.
En. J'ai appris à coudre des bobettes en son
pratique, ça. Mais tu sais, je pense que c'est quelque chose qui serait super important de.
Mais oui.
De quand t'es plus jeune, de comprendre qu'est-ce qui t'appartient. puis qu'est-ce qui appartient aux autres. T'sais, si lui décide de faire ça comme ça, ben laisse-toi pas affecter par ça. Arrête-moi, mais Chris, ça me gosse quand il arrête pas de dire ça. Puis tout, OK, mais c'est toi qui décides de te gosser par ça. T'sais. Travaille sur toi-même avant et tout. Puis je pense qu'il devrait faire des cours comme ça.
Des genres de cours de psycho. Communication, mettons. Là.
Exact. Ben, il existe une je vais dire formule, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ça s'appelle communication consciente et ou communication non-violente, qu'il appelle. J'aime mieux consciente parce que non-violente, on dirait que ça porte tout de suite d'antécédents de violence. Mais moi, j'ai un ami qui m'avait offert une formation en communication consciente, puis une formation initiatique d'une fin de semaine. Puis c'est là un peu que j'ai pris mes bases de ça, tu sais, puis la matière, la théorie, puis ça me suit aujourd'hui tout le temps dans ma vie.
Tu parles de ça avec une sagesse.
Amen, c'est fou, là, comment... Puis non seulement ça, mais j'ai bien moins de poids sur les épaules parce que je prends plus les problèmes des autres dans le sens que je vois plus... Maintenant, je vais comprendre que ça, ce que lui fait, qui me fait sentir de même, que moi, je vis telle émotion, ben ça y appartient. Puis là, je fais que, ah, man, OK, ça, j'ai plus sur mon bureau, là, j'ai plus besoin de m'en occuper. Puis, ouais, communication non-violente, communication consciente, c'est un homme qui s'appelle, son famille, c'est Rosenberg, qui a parti ça, c'était un...
Qui a théorisé ça.
Ouais, exact. Puis, j'en connais pas beaucoup précisément sur lui, mais bref, il y a des séances de ça, de communication non-violente, communication consciente. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe Conscienta, qui font des conférences à Montréal puis à Québec. Puis c'est incroyable, ces gens-là sont...
C'est hot,
man. Si je te dis, là, c'est fou. Là. Puis moi, justement, lui m'a offert, c'est mon ami Antoine Desrochers qui m'a offert ça pour mon anniversaire, il y a, je pense, c'est peut-être 3 ans.
OK.
Puis lui puis moi, on est tout le temps dans cette énergie-là maintenant quand on se parle, tu sais. On ne chicane plus parce que
quand
moi, je commence à ressentir quelque chose, la boule que tu parlais tantôt, ben avant qu'elle devienne trop grosse, je vais y en parler tout de suite. Je vais comme, d'abord, hey, t'as-tu du temps, 2 minutes, j'aimerais ça te parler. T'as-tu l'espace pour m'écouter en ce moment? Ouais, OK, parfait, on s'assoit, on en parle.
Ouais.
Fini, man.
C'est vraiment une chance, puis t'as vraiment une maturité à ce niveau-là que j'ai rarement vu pour un gars de ton âge, parce que t'es super jeune encore. Là.
Ouais.
Puis, ouais, c'est ça, ça demande une maturité, puis ça demande aussi de mettre son ego de côté, de dire, on va en parler, tu sais, c'est
l'ego,
on s'assoit, puis on en parle.
L'ego, c'est le pire ennemi. Là. Jim Carrey dit souvent ça, j'ai entendu dire en entrevue une couple de fois, puis
Jim Carrey, c'est un sage.
J'adore.
Jim Carrey, c'est vraiment un sage.
Depuis... Jim Carrey était un des premiers acteurs que j'ai vu à la télé qui m'a vraiment donné envie de faire du jeu.
Sur quoi?
Eh mon Dieu, très bonne question. Je me souviens que Yes Men m'avait beaucoup marqué.
Yes Men?
Ça, j'ai vu I Love You, Philip Morris
avec Ewan McGregor.
Puis, tu sais, qu'est-ce qu'il avait fait d'autre?
Si, avant vu,
le masque quand j'étais plus jeune aussi. Fait que tout au long de ma vie, j'ai comme vu ses projets, puis j'aimais tout le temps l'énergie qu'il dégageait. Puis là, à un moment donné, j'ai comme, bon, commencé à m'intéresser vers d'autres acteurs qui faisaient des projets plus films d'auteur, des trucs un peu plus sérieux, plus dramatiques et tout. Puis à un moment donné, là, j'ai recommencé à être intéressé par lui, par ses entrevues. Puis l'homme qui est devenu très spirituel, super éveillé, qui va venir briser, il a fait une entrevue.
C'est après le suicide de sa blonde, je pense.
Après le suicide? Je sais pas.
Je pense que sa copine s'est suicidée.
C'est-tu vrai?
Puis là, il a comme fait une grosse dépression, puis il a commencé à peindre. Il est comme retourné à l'intérieur. Puis c'est pour ça qu'il est comme disparu un genre de 2 ans. Là.
Ouais.
Il revenait avec une grosse barbe, puis comme il réinventait un peu. Là.
Ouais.
Je pense que c'est ça qui s'est passé.
Ouais, j'avais aucune idée de ça.
Ouais.
Puis lui, c'est ça, il dit que l'ego is the worst enemy. Puis je suis entièrement d'accord avec ça. Pour de vrai, c'est de le mettre de côté. Puis il en existe plein de livres là-dessus que moi, j'ai jamais lu, mais c'est sûr qu'il y en a plein, là, tu sais, ou des forums ou des vidéos de gens qui parlent de ça ou peu importe. Puis ça vaut tellement la peine, là, quand tu arrives à aller enlever le plus gros d'ego que tu as à l'intérieur de toi, là, c'est comme un relief tellement agréable.
Ouais, c'est sûr.
Ouais.
Tu parlais... Vas-y.
Non, mais j'allais te dire, il t'a donné ça parce que c'était-tu un issue dans ta vie avant ça? Ou...
La formation qu'il m'a offert? Non, parce que lui, il avait... Je sais pas comment lui en a entendu parler, mais lui, il avait suivi cette formation-là déjà avant. Puis il a juste connecté avec au bout. Puis il s'est dit, j'ai juste vraiment envie que les gens partout autour de moi... avec qui je m'entends bien puis que j'aime soit dans la même dynamique que moi. Idéalement, s'ils sont ouverts, tu sais, je suis allé essayer. Puis lui, en fait, on a acheté une maison ensemble il y a 2 ans.
Ah ouais, OK.
Ouais.
Voilà.
Moi, je voulais habiter tout seul, lui aussi. Puis à un moment donné, les deux, on s'est dit comment? Ben là, Chris, on devrait quasiment habiter ensemble. Ça pourrait être fucking cool. Mm-hmm. Puis on a acheté une maison ensemble, les deux. Fait que pour cette raison-là aussi, tu sais, du jour au lendemain, on chicane. Puis là, c'est comme, bah, je t'ai curé d'habiter avec toi. Je m'en vais, je ne pas un bail que je re-signe ou non. Là, faut que je vende, faut qu'on vende la place à deux. C'est, ouais, ouais. C'est comme...
J'avoue, c'est un gros projet. Ah, ouais,
on a un compte conjoint, puis tout, c'est fucking drôle.
C'est
puis lui, il y a un chien, fait que tout le monde est comme, alors votre copain, M. Desrochers, je suis comme, oui, oui, conjoint, on a un chien aussi, c'est très drôle.
Puis, t'es-tu allé là à reculons ou ça te tentait d'y aller quand tu t'as donné ça? T'es-tu comme, ouais, ok.
Ah, j'étais super réticent au début.
Réticent,
ouais.
Ouais,
ouais. Ah, ouais.
Mais j'imagine, tu sais, surtout quand c'est quelqu'un, pas qui te l'impose, mais tu sais, qui te le propose, mettons, là. Tu sais, ouais. J'ai-tu vraiment besoin de ça, nanana. Puis, j'imagine, ouais, quand, genre, la chose que quand tu y vas, tu réalises à quel point ça peut bénéficier à tout le monde.
Exact. Puis, c'est qu'en fait, je me suis posé la question aussi, est-ce que ma communication a besoin d'être améliorée avec mes relations autour de moi? Puis, j'ai pas senti ça du tout, tu sais. Dans le sens que, oui, tout le temps, elle peut toujours être améliorée, je pense, mais j'avais pas de conflit qui partait de là, en fait. Ça a toujours été super important pour moi, la communication avec ma famille, mes amis et tout. J'haïs les conflits. Je déteste les conflits. Mm-hmm. Puis, donc, c'est ça. Fait que je me suis posé la question, est-ce que j'ai besoin d'aller vers là? Puis, la réponse, c'est que je me disais non, pas vraiment, tu sais. Je trouve que ça va super bien. Puis là, il me l'offrait, tu sais. Fait que j'ai fait, bah, ben, cool, all right. Ben, ouais, je vais le faire, tu sais. Ça me tentait pas, là. Ça me tentait vraiment pas. Puis c'était 3 jours en plus. C'est une fin de semaine de 3 jours, là, tu sais. De 8 à 5, mettons, genre, c'est
des
comme.
Cours de ça.
C'est une fin de semaine où je sors pas avec mes amis, là. Puis j'étais là. Ah,
c'est-tu à Montréal, quand même? Tu dors chez
moi,
vous?
Moi, je l'avais fait à Montréal. Ouais, ouais, tu dors
chez vous. T'es pas genre dans une retraite, ça
non,
peut
non,
être
non.
Cool après 5
C'est
là.
Pas, mais tu peux. Je pense qu'il y a après ça, des formations plus approfondies qui peut-être demandent ça, mais. Mais moi, c'était juste comme on partait le matin à 9h, puis on fait ça jusqu'à comme 3-4 heures l'après-midi, pendant 2 ou 3 jours, je me souviens plus trop. Puis je suis sorti de là, puis je le remercie encore aujourd'hui de m'avoir fait ce cadeau-là. Mm. Parce que c'est comme ça m'a suivi aujourd'hui tellement, tellement bien. Puis j'ai vraiment vu mes relations s'améliorer. Puis non seulement ça, mais moi, j'ai vu aussi plein des charges comme ça tantôt de moins. Tu sais, c'est comme j'ai compris à me connaître aussi moi-même à travers ça. Puis. Ça a été super bénéfique.
C'est hot. Ça me donne envie de faire ça.
Hey, je te le souhaite, man. Pour de vrai, là, genre, tu regretteras pas. Je te le dis, là, ça vaut vraiment la peine. Je t'enverrai les infos si tu veux.
Ouais, s'il vous plaît.
Ouais.
Non, pour vrai, ça me donne envie de faire ça. T'as mentionné Yes Man tantôt.
Ouais.
J'en ai parlé justement avec ma soeur. Mm-hmm. Hier, on s'est vu. Puis Yes Man, derrière les apparences de comédie, là, c'est...
C'est beau, hein?
C'est beau.
Ouais,
vraiment.
Ouais,
c'est vraiment un film qui a une vie au-delà du 2 heures en riant. Ouais. 2 heures à rire que tu écoutes.
Il est plus profond qu'il le semble, le film. Ouais.
Je me souviens quand tu l'avais vu la première fois. Je me souviens que tu m'en avais parlé.
J'étais allé avec Nick.
Puis tu m'avais dit, genre, faudrait que je dise plus oui. Là.
Ouais.
Je me souviens que tu étais sorti de là.
Ouais,
puis
ouais, probablement que si c'était pas Yes Man. Je serais peut-être pas allé à OD, là, tu sais.
Ouais.
Tu te souviens
pas.
Ouais, ouais, ouais. Okay. Parce que, tu sais, à partir de ce moment-là, puis je venais de le revoir en plus, parce que avant qu'on parte, c'est Doom qui m'avait challengé d'aller aux auditions. Puis, dans le fond, on était en voyage à Taïwan. Mais juste avant de partir en voyage, j'avais revu le film parce que j'en avais parlé avec Jab avant, avec un de mes amis. Okay. Puis je venais juste de revoir le film, puis je m'étais dit, OK, là, j'ai fini de ma carrière dans le genre, fait que là, je vais dire oui, plus. Puis là, lui, il m'a proposé ça. Je fais « OK, man, go.
Nice. » Puis
là-bas, c'était ça aussi. Là.
Malade.
Ouais.
Là-bas, c'était comme « OK, man, tu veux que je fasse un exposé oral devant le Québec au complet? Ben, OK, j'ai pas le choix, go. » Puis
ça arrivait des fois d'avoir regretté ta décision.
C'est jusqu'à maintenant, mais je me suis quand même gardé certains noms.
Oui, ben oui, puis je pense que c'est ça qu'on apprend dans le film aussi.
Ouais,
là.
C'est ça, exact.
À la fin, c'est comme, tu sais, faut pas tout le temps que tu dises
même
oui,
le gourou du oui dit, ouais, tu fais juste dire non, est-ce que tu capes?
Puis ça aussi, c'est une autre affaire que moi, j'ai dû travailler avec le temps de dire non.
Ouais.
C'est clair à dire, là, mais c'est tough.
Ma blonde, c'est
fois,
ça
là,
son problème.
De dire non, t'as peur de la réaction des autres. Mais encore une fois, ça leur appartient, leur réaction. Si eux, ils décident d'être fâchés, pose-toi la question, est-ce que t'es dans le tort? As-tu fait du tort à cette personne-là? T'es méchant avec elle ou peu importe? Sinon, t'as juste répondu non, puis lui, il aurait vraiment souhaité que tu dises oui, mettons.
Ouais.
Ben là, c'est toi de travailler sur toi-même que ça t'affecte pas s'il décide d'être fâché puis qu'il te pète une coche. Puis c'est un travail, ça aussi. Là.
Ouais, mais travail,
les deux, c'est des bons défis pour des raisons différentes.
Ben oui, équilibre entre les deux, man.
Tu sais, dire oui, une situation, mettons, qui est challengeante, mais qui est épeurante, puis qui est un défi, mais qui sort de ta zone de confort, tout ça, dis oui, tu sais. Dis oui à ça. Mais une situation, justement, qui va t'amener absolument à rien, juste du négatif, dis non, apprends à dire non à ça, tu sais. Fait que c'est aussi d'être capable de reconnaître ces situations-là.
Mais oui.
Parce qu'il y a des situations qui paraissent super inconfortables, mais dans le fond, c'est juste parce que c'est un bon défi, puis ça, il faut que tu dises oui. Puis quand tu dis oui à ces choses-là, t'apprends tellement, t'avances tellement, tu sais, tu te ramasses à des places que tu n'aurais jamais imaginé te rendre. Là, t'sais, moi, je me prétends pas l'expert du oui, mais t'sais, quand quelque chose me challenge, ou t'sais, mettons, je me fais demander, t'sais, comme je te disais tantôt, je fais de la musique, t'sais, puis je me fais dire, OK, dans 3 jours, il y aurait tel show, il faut t'apprendre 40 tunes, tu peux-tu le faire? Puis genre, je vais mentir, puis je vais dire oui. Es-tu capable de le faire? Je vais mentir, puis je vais dire oui. Mais je vais m'arranger pour que ça soit pas un mensonge, finalement. Puis arriver, puis être capable de le faire.
C'est un beau défi que tu t'imposes.
C'est ça, tu sais. Je me suis ramassé, man, à toutes sortes de places, genre à faire des back vocals pour Ginette Renault, man, parce que j'ai dit oui à des affaires que, genre, je sais pas qu'est-ce que je calissais là, mais tu sais, j'ai fait ça.
Ça te finit bien, quand même, en général.
Ouais, mais oui, c'est ça.
À ça
C'est ça.
Après ça, l'adrénaline que t'as de comme, hey man, genre, j'avais peur de faire ça, mettons. Puis là, je l'ai fait, puis tu finis, puis t'es comme, ah, cool, je suis content de
l'avoir
fait.
Je me sens exact.
Bien, là, ouais.
Mais
ouais.
Oui, vraiment. Ouais. Vraiment, ouais. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires. Je veux dire, le podcast, on l'avait pas dit oui. Tu sais, moi, si j'avais pas dit oui, moi, c'est quelque chose qui me faisait peur, là. C'est pas une situation où est-ce que je me disais, genre, je suis vraiment à l'aise là-dedans, puis ça va être facile, puis genre, comme un poisson dans l'eau, je sais comment ça marche. C'est comme, OK,
aucun
non.
Aucun de nous deux avait fait n'importe quoi qui s'approchait. Tu vois, toi, t'avais fait de la radio.
J'ai fait un peu de radio, genre, mais tu sais, de la musique, genre, on continue avec telle tune, genre, mais la tune, tu sais.
J'ai écouté les midi jazz avec Dominique Plante, de jazz. CKRL, 106.3, je sais pas c'était quoi.
C'était exactement ça.
103.6?
Non, c'était. Mais c'est ça. Mais c'est parce que c'est en le faisant aussi que tu apprends et que tu deviens meilleur. Fait que c'est juste d'en faire.
Tu sais quoi, moi, je pense qu'on a tous comme une boussole à l'intérieur de nous ou un instrument qui deep down, là, si tu arrives à l'écouter avec le temps d'année en année, ça, il va te le dire, lui, si c'est bon pour toi ou non. Il sait, là. Puis des fois, c'est important de pas de mélanger le stress avec la fébrilité, mettons, ou des trucs. Tu sais, comme moi, je sais, par exemple... Un bon exemple pour moi, ça a été le scénario de Yann, une 54, que je trouvais super difficile parce que j'étais vraiment indécis à le faire ou non, ce scénario-là, parce que il y avait des scènes de nudité dans la première version du scénario avec un autre gars, puis il fallait que j'embrasse deux autres gars aussi dans le scénario, puis j'avais jamais embrassé de gars, je suis pas gay dans la vie, puis ça me faisait peur d'aller dans cette zone-là. Puis je cours pas non plus dans la vie, puis c'est un coureur, tu sais, je suis asthmatique, moi, fait que là, j'étais comme, bon, faut que j'apprenne à courir pour ça aussi. Puis j'étais super stressé et anxieux par rapport à ça, mais il y avait une petite voix intérieure de moi qui me disait « Man, tu sais que ça peut être bon pour toi, tu le sais, mais c'est juste que ces affaires-là, ça te gosse, mais ça vient avec. » C'est comme, si t'arrives à au moins entreprendre ces trucs-là, tu vas voir en bout de ligne ça va valoir la peine. Puis je suis super content de l'avoir fait aujourd'hui. Là.
Ouais.
Les gens que j'ai rencontrés là-dessus, puis de travailler avec Yann, ça a été super... super formateur. Je pense pour moi, d'une certaine façon, on a tourné dans une école secondaire devant les jeunes de l'école. Fait que c'est pas un plateau fermé, là. Moi, je stand-by dans le coin-là, là, puis tu sors de ton cours, tu me vois, puis les gens viennent me voir, puis ils me parlent, puis je suis comme, hey, « je peux pas parler, faut que j'aille faire une scène là, mettons. » Puis je suis en train de faire mon texte dans ma tête et tout. Fait que c'était super difficile de me concentrer. C'était nouveau pour moi, ça aussi. C'est ce que je voulais dire par formateur, mais ça a été super bénéfique pour moi, mettons, ça.
Y a-t-il des trucs que t'as gardé, mettons, t'as-tu gardé un goût pour la course ou pour frencher des gars, mettons?
La course... oui, un peu des fois. Ouais, Frenchie des gars, non. Regardez ça. la course, ouais, j'ai gardé ça. Puis j'ai réussi à améliorer ma concentration, ma bulle, en fait, quand je travaille. Tu sais. Parce que là, c'était vraiment... était tout le temps challengé là, par des gars qui sont pas tendants de te voir dans ton école avec un Kodak devant toi parce que eux c'est les kings de l'école, mettons. Là, puis eux, ils vont arriver, là, puis toutes les filles trippent sur toi, puis eux sont comme... Fais chier, moi, j'étais un peu sous de la jalousie ou peu importe. Ouais. Fait qu'ils vont t'envoyer chier de loin, ils vont essayer de te déconcentrer, ils vont pitcher des affaires entre les jambes. Il y en avait de ça, là. Il y en avait de ça, puis ça m'a... Ça, travail, man. J'ai travaillé, puis j'ai réussi à comme me bloquer de ça, puis je pense que c'est super bon pour moi aujourd'hui.
Ouais, ça fait partie de ton bagage maintenant.
Ouais, fait que pour revenir à ce qu'on disait, tu sais, ça, mettons, j'ai dit oui, puis je le savais, il y avait cette petite voix-là, tu sais. Puis c'est ça, je pense qu'on le sait généralement. Tu le sais quand, comme pour revenir à ce qu'on disait, non, tu sais. Tu le sais, si en affaire, tu te dis, ah, ça a l'air super cool, mais quelque chose que quelque chose qui cloche. Puis moi, je pense que c'est ton corps qui arrive déjà à anticiper des problèmes qui pourraient arriver à cause de ça ou des conflits ou peu importe. Puis il sait que c'est peut-être mieux pas. Ça peut toujours changer aussi, moi, je pense. T'sais. Je pense que ça va toujours finir par changer, mais ouais.
Ouais, aussi, c'est ça, de faire confiance à son feeling, quelque chose que tu feels pas.
Ouais.
Ça peut être aussi qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire-là, qui fait pas avec toi, qui est pas toi, qui concorde pas avec tes valeurs, de faire comme ça.
Ouais, ouais, ouais.
Moi, j'ai. Dans ma carrière de natation, j'ai réussi à séparer le stress puis l'excitation. Ouais. Le stress négatif puis
la fébrilité.
La fébrilité.
Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Puis une fois que j'ai compris la différence entre ces deux émotions-là, j'ai vraiment appris un step mental sur mes performances.
Okay. Ah, ouais.
Tu sais, mettons, je me levais le matin d'une compétition, puis quand je sentais, c'est la même genre de boule dans l'estomac, mais quand je la sentais comme étant du stress, j'étais pas bien.
Okay.
Puis quand je me suis levé un matin, puis j'ai fait « Attends un peu, là. » Ça, là, parce que j'aime ça au final, ce que je m'en vais faire. Fait que ça, sais-tu vraiment. Est-ce que je suis vraiment stressé ou je suis juste excité de ce que je m'en vais faire?
Ouais.
J'ai fait, Chris, je suis excité. Genre, j'ai hâte d'aller faire ça. Puis la boule dans mon estomac n'est pas négative, finalement, elle est positive. Ouais, puis après ça tu pars avec cette espèce d'idée-là, puis t'as juste un step positif sur tout, là, tu sais. Puis ça, c'est dans n'importe quoi qui sort de ta zone de confort. Si vraiment ce que tu ressens, c'est vraiment comme une espèce d'anxiété de comme « man, ça me tente pas » ou genre « j'ai aucune envie de faire ça », des fois, force-toi pas à le faire, là, tu sais.
C'est peut-être juste pas pour toi aussi.
Mais si t'as une espèce de boule qui te dit « ah, man, il y a quelque chose là, il y a une boule dans mon ventre, mais je peux pas vraiment dire que c'est parce que ça me tente pas
»,
c'est de l'écouter aussi. Mais de faire la distinction, ça permet de voir des expériences comme ça plus positives.
Puis de ne pas te priver aussi de faire le mauvais choix, mettons. Tu penses que tu stresses, mais finalement, c'est juste que tu es excité. Ouais.
Ouais, c'est ça, exact. Ouais, exact. Ouais.
Toi, quand tu as reçu le scénario de mamie, justement, là, tu devais avoir une genre de boule dans le ventre. Là. Un genre de ça va mais être en gros, faut que je sois à la hauteur.
Quand j'ai reçu le scénario, on l'a construit. Fait que, mettons, Xavier l'écrivait chez lui, puis il me parlait déjà des scènes qui n'étaient pas écrites.
Mm. T'avais déjà dit oui.
Ça s'est comme build-up, c'est ça. Ouais, j'avais déjà dit oui.
Mais quand il te l'a offert, j'imagine que tout acteur, c'est le rêve de tout acteur de ce genre de rôle-là. Fait que j'imagine que t'as pas trop hésité à dire oui.
Non, j'ai dit oui de suite.
Sauf que...
il était obligé d'aller dans ses pamphlets de Yes Man.
Sauf qu'il y avait
certainement... Oui, OK.
Il devait quand même avoir une peur associée à ça, là, j'imagine.
Excitement.
Ah ouais.
Okay. Ah ouais, c'était moi, j'étais excité.
Tu l'as reconnu.
Mais cette peur-là, des fois, je vais l'avoir en ayant le scénario pour la première fois comme ça.
Ouais.
Au fur et à mesure que je lis le scénario... toutes les scènes du personnage que j'ai incarné, mettons, je vais me mettre à la place, puis là, j'imagine dans la tête comment je le ferais, est-ce que je suis confortable à faire cette scène-là, et tout simplement, et tout, est-ce que je pense que je vais être bon pour la faire. Puis oui, là, des fois, je vais avoir comme du stress un peu qui va embarquer ou de la peur, mettons, je vais être comme, OK, non, peut-être que là, dans toutes les scènes que j'ai vues, il y a trop d'affaires avec lesquelles je suis pas à l'aise et tout, j'ai mieux pas, mettons, tout simplement.
Il y a des rôles que tu as turned down à cause qu'il y avait quelque chose qui te retenait.
Ouais. Ou parce que des fois, pendant l'année de mamie, j'ai travaillé comme un malade. Genre, c'est comme, je travaillais sur deux quotidiennes. Il y avait Subito Texto, Les Argonautes.
Ouais.
Ça, c'est trois répètes le lundi et mardi, puis tu tournes le mercredi, jeudi, vendredi.
Oui.
Puis t'as des textes, man. C'est gros textes, longs, vraiment épais.
OK.
Puis. Fait que là, t'as cette semaine-là qui est complètement bookée. Après ça, j'avais certaines journées sur le téléroman Mémoire vive. Puis après ça, j'étais en train de me préparer pour mamie. Man, c'est comme...
C'est insane.
Ça. J'adore le tartare de saumon. C'est fucking bon. Mais à tous les jours, mettons, à un moment donné, j'étais cœur. Fait que j'ai trouvé ça plate parce que justement, j'étais tellement passionné par ça. Puis là, je retournais chez nous puis j'étais comme, hey, j'ai pas envie d'y aller demain. Là. Ça me tente pas. Là, c'est trop. Fait que là, ben, j'ai commencé à comme vraiment faire, OK, il faut que j'en prenne. Faut pas trop j'en prenne.
Ouais.
Puis, donc, des fois, il y a des rôles que je vais tout simplement refuser parce que je viens d'en finir un qui me demande beaucoup d'énergie. Puis là, je veux prendre du temps pour moi. Tu sais, je veux, comme moi, être capable de me repluguer en énergie. Puis c'est aussi que si je le prends, ce scénario-là, puis je le sens pas tant que ça, puis je sais que je vais être fatigué parce que je vais revenir de tel tournage à ce moment-là, ben man, je vais pas arriver sur le set puis que lui, le personnage qui m'a offert, ben je
l'ai
pas
autant, merde,
je donne la merde, tu comprends? C'est comme moi je suis pas bon pour ce rôle-là parce que je vais être brûlé en revenant. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui devrait avoir la chance de le faire puis qui lui va vouloir mettre toute l'énergie puis tout l'espace. Tu sais.
Est-ce que tu es en demande beaucoup en ce moment?
En demande?
Ouais. Est-ce que comme ton horaire est complètement loadé puis tu dis non à des affaires?
Je dis, mon horaire n'est pas complètement loadé.
Il y a encore de la place pour un projet qui serait super excitant qui arrive demain matin. Y a-tu tout le temps de la place pour un projet super excitant? Tu sais, tu dis là, tu dirais peut-être non, je suis fatigué.
Ça dépend. Ça dépend. Tu sais, des fois, quand tu es déjà, mettons, déjà attaché à un projet depuis un bout, puis là, tu arrives là, puis là, on dit, bam, à ce moment-là, il y aura un autre projet qui est encore plus excitant. Ben, c'est sûr que, tu sais, quand tu as un engagement, pour moi, c'est comme respecte-le, puis tu veux pas mettre l'autre dans la merde à trouver à caster de nouvelles personnes pour le rôle, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est une question de circonstance, je pense, tout simplement. C'est voir où est-ce que tu as le plus envie d'aller et tout. Mais c'est cool. Je te dirais que depuis Mamie, je suis tellement reconnaissant de ça parce qu'on m'offre beaucoup de rôles.
C'est sûr.
Les gens pensent à moi. Puis non seulement ça, mais moi, quand j'arrive sur un plateau de tournage, je veux que les gens aient envie de retravailler avec moi. Je veux que ce soit le fun pour eux. Puis je veux que ce soit le fun pour moi aussi. T'sais. Puis je pense que c'est ça qui fait travailler des gens quand même assez longtemps dans leur carrière.
Ben, c'est sûr. Oui. C'est sûr que oui.
Puis à voir comment justement tu traites les relations interpersonnelles. Puis tu travailles ça, puis tu cultives ça. D'après moi, tu dois être une personne avec qui c'est agréable de travailler. Là, tu
sais. Plaisir de travailler ensemble peut-être un jour.
Ouais, c'est clair. J'ai une question qui m'est venue. T'as-tu des aspirations derrière la caméra? Un peu ou non?
Ouais.
Ouais?
Ouais, j'en ai.
Quel genre?
La musique, je commence à explorer la musique un peu.
Qu'est-ce que tu fais, mettons?
J'ai commencé avec des cours de piano quand j'avais peut-être en Gaspésie, justement, que j'ai pas entretenu avec le temps, mais que je vais retourner chercher. J'ai commencé à faire du drum un peu.
Ah ouais?
Ouais.
Cool.
Je commençais à prendre des cours de chant aussi. Je te dirais qu'au début, mon but, c'était d'être capable de jammer avec du monde, tout simplement. Okay. Quelqu'un embarque sa guitare, ben moi, si je peux embarquer sur le drum ou juste taper sur un banc, à limite, puis là, essayer de faire de la guitare aussi. Fait que ça, la musique est quelque chose que je commence à explorer.
C'est pas nécessairement en tant que frontman ou comme artiste, là, juste jouer de la musique avec
d'abord,
du monde.
D'abord, c'est pour moi être capable de faire de la musique avec du monde, puis pour moi aussi. Après ça.
Tu parles de cours de chant. Dans Mommy, il fallait que tu chantes.
Ouais.
Il y a des scènes de chant.
Au Perleil.
Ouais, c'est bon, ça. Cette scène-là était incroyable. Là. C'était une scène. Puis,
j'étais stressé de la fin.
C'était ça parce que on dirait que le personnage a l'air stressé, mais toi, tu l'étais aussi.
Je l'étais. Puis en fait, je me souviens, j'avais dit à Xavier, je dis, mais là, Xavier, je sais pas chanter. Puis c'est parfait, c'est exactement ça. Il sait pas chanter, il a fucking 16 ans, tu sais. Genre, c'est comme, il est tout petit, puis il veut juste chanter pour sa mère, puis c'est bon même qu'il se fausse en chantant, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, OK. Ouais,
c'était touchant, ça.
C'est bon,
ça,
c'est
tu m'en reparles, j'ai encore des. Ce film-là m'a touché beaucoup.
C'est vraiment un bon film.
Ouais.
Puis tu vois aussi l'amour de Xavier pour le Québec puis la culture québécoise, dans ce film-là.
Il laisse rien, il laisse pas de détails passer. Non, c'est ça. Il fait ses recherches, man, puis il va être tête là-dessus. Là, ouais,
c'est l'idée. Vraiment, tu sais, Vivo Perlet, moi, ça jouait chez nous là, quand j'étais jeune.
Ouais, c'est vrai.
Ben oui, oh non, c'est vraiment. Puis tu sais, justement, la. Céline, là, tu sais, il y a vraiment.
Ouais, ça a l'allure qu'eux, ils trippent sur Céline. Vraiment. Puis qu'il y a des
choses. Ça fait du sens, là. Vraiment, c'est 100%.
Puis je suis sûr que Xavier trippe sur Céline sans deuxième degré, là.
Ouais.
J'en suis certain, là, tu sais. Puis, fait que c'est beau, ça, tu sais, Xavier, autant que, tu sais, on le sait, qu'il aime Cannes, puis là, il a fait un film aux États-Unis, tout ça. Mais tu le sens pareil dans ses films qu'il y a un amour pour le Québec, là.
Ben oui, solide. Ouais.
C'est hot, ça, tu sais, puis. Moi, mon all-time favorite au Québec, c'est Crazy. Là.
Ouais.
À chaque fois qu'on me demande, mettons, la première chose que je montrerais à quelqu'un qui veut découvrir le Québec, c'est ce film-là.
OK.
Je ferais écoute c'est Crazy parce que c'est le Québec comme il y est. Là, c'est le Québec des années 70, 80, 90, comme nous, on est nés à la fin de ça, là, tu sais, les parties de Noël, je les reconnais, là.
Ces parties
de Noël-là, chez ma grand-mère, là, j'y allais, là, tu sais, c'était... Je l'ai vécu maintenant moins, tu sais, mais si quelqu'un me demande, tu sais, c'est quoi le film qui va me faire mieux le connaître, le Québec, je dirais Crazy.
Nice.
Puis après ça, viendrait Mommy, tout de suite après. Ouais. Puis ça, c'est le fun, justement, de voir des réalisateurs internationaux québécois qui sont à l'international, garder ça.
Mm-hmm.
Même si là, c'est clair que, mettons, Jean-Marc Vallée, il est parti, se fait un petit bout, puis je sais pas s'il va revenir au Québec. Là, Je l'espère, en tout cas. Mm-hmm. Puis, mais Xavier, j'ai hâte de voir son prochain film, justement. Là.
Ouais, qui est revenu, oui, justement, cool. D'ailleurs. Là.
Je l'ai vu, mais il est super
cool. Tu l'as vu, le film?
J'ai pas vu la version qu'ils vont montrer à Cannes, mais j'ai vu une première version.
C'est bon?
Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça. Puis.
Gab, es-tu bon? Gab, c'est la personne.
Tout le monde est bon dans les films à Xavier, ouais, man. Sûr. Tout le monde est bon. C'est comme. Ouais. Il va pas. Si la scène marche pas, il va la travailler jusqu'à temps qu'elle marche.
Ah ouais, ok.
Puis tout le monde est bon dans le film. Puis le. C'est comme il y a comme un groupe d'amis qu'on suit si on veut un peu. Puis cette énergie-là qui a réussi à passer, qui a réussi à créer en fait avec toutes ces personnes-là est magique.
Ah ouais.
Vraiment magique. Ouais, moi j'ai trippé à regarder ça.
J'ai vraiment hâte de le voir ce film-là. Ouais. Vraiment.
Ouais, je leur souhaite succès à Cannes qui sont là en ce moment.
C'est
en
là, fait.
Ouais, c'est là. Ouais.
C'est quand ça sort ici? C'est quand on va pouvoir le voir?
Ah, j'ai aucune idée.
Je sais pas.
Je pense que ça va dépendre de comment ça va se passer à Cannes.
OK.
S'ils gagnent des fois. Je pense que si tu gagnes, mettons, le prix du jury ou peu importe où le prix, la palme d'or, tu sais, je pense que ça va. Les distributeurs, ils vont évaluer le marché en fonction de ça, qu'est-ce qui est le mieux pour la sortie du film et tout. Hein, ça peut affecter ça, je pense.
OK. Ah, j'ai hâte de voir ça. Gab, c'est la personne la plus drôle que j'ai rencontrée dans ma vie. C'est vraiment genre la personne la plus drôle. Il fait des affaires dans la vraie vie. Là. Tu sais, même quand il est pas en stand-up, là, il est genre dans son personnage 100% du temps.
Fait que dans les prochains jours, le film va être vu là, là-bas. Là.
Ouais. Il est peut-être même déjà vu.
Ouais. Ah ouais, OK.
Ben, je pense comment ça fonctionne.
On aurait sûrement vu passer des critiques. Ou...
Ouais, c'est ça. Il va avoir la première projection qui est... Je pense les critiques ou être en même temps que la première du film. Mais je suis pas un calé là-dedans, je peux pas dire.
En ce moment, tu shootes dans quoi là?
En ce moment, je shoot rien.
Tu shootes rien en ce moment?
Nope.
T'en as-tu un qui s'en vient bientôt?
Non. J'ai des propositions
qui
sont pas encore signées, mais qui m'intéressent. Je peux pas parler.
On peut pas le savoir.
J'aimerais ça vous en parler.
prochains, ceux que tu nous as parlé, celui avec Josh Hartnett puis l'autre.
Ouais, ça va. Gut Instinct, ça devrait. Mon guess, c'est ça va peut-être être autour du mois de septembre.
Ok.
Je pense qu'ils veulent peut-être essayer d'aller à TIFF avec aussi.
Ah ouais?
Ah ouais, ok.
Ouais donc, mais ça va sortir en 2019, je suis pas mal sûr.
Celui-là, il raconte quoi?
C'est l'histoire d'un Québécois qui s'appelle Alain Olivier qui, dans les années 90, c'est un junkie, en fait. Lui, il est parti en Thaïlande avec un ami, puis c'est un utilisateur d'héro. Puis je pense qu'ils en ont ramené avec eux au Canada. Puis là, il a comme parlé à un gars, tombé sur mauvaise personne, qui était, je pense, un informateur pour la police, ou je connais pas le terme exact. Mais bref, il y a une grosse opération qui s'est faite monter autour de lui en pensant que c'était un drug lord, un dealer, mettons, quelqu'un qui avait des très bonnes connexions dans le Golden Triangle qu'on appelle, qui est dans le fond une région entre trois pays, dont la Thaïlande, qui je pense que c'est là qui c'est le deuxième plus gros producteur d'héroïne.
Okay.
Fait qu'ils pensaient qu'il y avait un gars qui avait une connexion directement avec ça. Fait qu'ils ont commencé à construire l'opération autour de lui, puis à mi-chemin, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas le bon gars. Il avait juste trompé notre famille, je pense, ou peu importe. Puis c'était vraiment juste un junkie. Là. Il y avait 24 années, je pense, à ce moment-là.
Ça, c'est toi, c'est ton personnage.
Moi, je fais le personnage d'Alain Olivier là-dedans, ouais. Puis le journaliste Victor Malarek de Toronto, je pense, qui est un vrai journaliste, lui a entendu parler de cette histoire-là. Puis il a décidé d'investiguer ça. Il est allé en Thaïlande rencontrer Alain en prison.
Lui est emprisonné là-bas,
ouais. Il s'est fait emprisonner là-bas à vie.
Au début, c'était sentence à mort. Tu tournais ça au lieu de... En Thaïlande?
Ouais, on était en Thaïlande dans une prison tournée là-bas. Ouais.
Aïe, aïe.
Ouais. Puis il est sorti de prison en 97. Moi, je suis né en 97.
Ah,
c'est très drôle. Puis il est revenu au Québec, Alain, puis je l'ai rencontré avant le tournage. Super gentil, le gars. J'ai beaucoup d'amour
pour lui. Combien de temps
lui.
Il est resté en prison?
Il est resté 8 ans. Puis l'espérance de vie, c'est 7 ans en Thaïlande.
Dans les prisons là-bas?
L'espérance de vie, ouais. Puis il était supposé, il avait été, dans le fond, condamné à mort.
Okay.
Puis là, il a décidé de plaider coupable pour qu'il soit une sentence de 100 ans. Au lieu de
la mort.
Exactement. Fait que là, il s'est sauvé en faisant ça parce que là, Victor Malarek a commencé à l'aider à récolter tous les papiers pour prouver qu'il n'y avait pas d'affaires là. Ouais. Fait que là, ils ont décidé de faire un gros film là-dessus. Puis Daniel Roby, lui, a suivi, il a entendu parler de cette histoire-là, puis il a suivi tout le procès d'Alain, je pense qu'il a duré une dizaine d'années à peu près. Il est allé en cours à chacun des...
chaque étape.
Ouais, à chaque étape, je pense. Puis là, il a construit ce scénario-là. Puis écoute, ça fait à peu près 10 ans là, qu'il travaille là-dessus. Puis il y avait d'autres personnes qui avaient été castées pour, ça n'a pas marché et tout. Puis ça faisait, je pense, ça faisait comme 3 ans qu'il essayait de partir le tournage, puis ça marchait jamais.
Oh ouais.
Puis Josh était déjà attaché au projet à ce moment-là. Ouais.
Lui, c'est le journaliste de Toronto.
Ouais, Josh Arnett fait le journaliste de Toronto, exact.
C'est malade, ça. Cool, toi, t'as rencontré ce gars-là? Ben, pas Josh Arnett, mais le
Alain,
gars.
Alain, ouais. Ben oui, oui, oui. Puis on se voit encore des fois.
Oh, ouais,
mais ça, ah, mais
quel genre de gars que c'est?
8 ans.
Maintenant, il est
ici. Ouais, là, il doit avoir peut-être cinquantaine, okay. Alain. Puis ouais, ouais, il est super.
Il est-ce qu'il va mieux?
Il va très bien. Très bien. Puis là, il est en train d'écrire son livre. Il en a déjà écrit un, je pense, aussi. Victor Malarek qui l'a écrit, je suis plus sûr. Mais là, je sais qu'il travaille sur un livre qui va sortir en même temps que le film. Qui parle en détail de son expérience en prison là-bas.
Ouais. Ça doit pas être doux, man.
Ah non, man. Ah non, là-bas, c'est. Je pense que j'avais vu là, sur une liste que c'était genre la 18e pire prison dans le monde. Celle où il est allé. Je pense que c'était à Bangkwan en Thaïlande. Il a fait 2 en fait, mais Bangkwan, celle-là, c'était une des pires. Puis ce qu'ils font, c'est quand t'arrives, t'es nouveau, ils prennent des gros morceaux de métal qui plient autour de ta jambe avec une machine. Puis tu portes ça, ces chaînes-là, de comme je sais pas combien de dizaines de livres entre les aux chevilles. Tu les portes pour les, mettons, 3 premiers mois. Si t'es gentil, tu les enlèves, sinon ils te laissent. Lui, ils avaient gardé pendant 6 mois, je pense. Puis il se retrouve dans une prison thaïlandaise. Là. Il y a personne qui parle français là-bas. Là. S'il y en a qui parlent français, c'est du monde comme lui qui se sont fait arrêter là-bas. Puis c'est vraiment des conditions qui sont difficiles, puis on les voit justement très bien dans le film.
Ah, oh, man!
Ouais. Puis il était là pour consommation et possession ou parce qu'il pensait que c'était le drug lord?
Non, parce que dans le fond, eux, ils voulaient organiser l'opération là-bas en Thaïlande pour, mettons, je sais pas combien de kilos d'euro. Puis plus le nombre de kilos dans la transaction était haut, plus eux, ils se faisaient payer cher. Là.
Mm.
Puis lui, dans le fond, c'est juste qu'il y a comme... parler à son ami, ouais, c'est qui, mettons, le gars qui, la dernière fois, est allé voir ce gars-là, il a essayé, mais à chaque fois, c'est comme lui, il voulait pas, il voulait délaisser ça aux autres, puis eux, justement, de ce qu'on comprend, c'est que il y a eu la pression Mr. Big, qu'on appelle l'opération Mr. Big, parce que la police se fait passer pour comme une mafia un peu et tout.
L'opération Mr. Big?
L'opération Mr. Big, mais c'est un type de stratégie, je pense.
Okay.
Et non pas le nom de cette opération-là.
Okay.
Ouais. Ouais, ça va être
toi même quand tu te prépares pour un rôle comme ça, puis que tu fais des recherches, puis que tu parles à cette personne-là, ça doit t'amener dans une place unique en esti.
Ben oui.
Tu parles au gars, je veux dire, on peut même pas concevoir c'est quoi passer 8 ans dans un trou misérable. Moi, j'ai passé 3 mois dans une villa de luxe à Bali, puis j'étais tanné en tabarnak, ouais. Tu sais. Genre, sans avoir contact avec ma famille, j'étais écœuré d'être là. Puis c'est comme, ah là, j'ai juste vu les filles une journée cette semaine. Ouais. Eux autres, même, les filles, ils voient pas.
Il n'y a pas de filles.
Non, puis il y avait 24 ans, je pense.
Ben oui.
24 années, c'est quand comme il s'est fait emprisonner.
De 24
là.
À 32, genre.
Imagine, puis t'es loin de chez vous, là. T'es loin, même.
Puis t'es en Thaïlande. Tu sais pas si tu vas sortir un jour.
Il y a personne qui tu peux pas rentrer en contact avec personne là-bas. Là. Tout le monde parle thaïlandais. Là. Tu sais, c'est... Ouais. Ah non, man.
C'est terrible, man.
Il y avait quelque chose d'incroyable. Puis je pense que de faire un film, lui, de voir ça, là, de voir que son histoire va se faire partager à travers un film avec fucking Josh Arnett.
Ben oui.
Mais je pense que ça, c'est tout simplement la vie qui retourne les choses peut-être de son côté ou tout simplement, mais je sais que ça le rend tellement heureux que les gens puissent connaître son histoire, tu sais.
Puis toi, tu sais, justement, on disait, on peut pas s'imaginer c'est quoi de vivre ça.
Toi, faut un peu
puis toi, ta job, c'est de comprendre c'est quoi cette douleur-là, puis de le transposer à l'écran, puis de le vivre. Là. C'est assez impressionnant, pareil. Là.
Ouais, ouais. Quand j'étais un peu plus jeune, puis j'ai regardé la télé en Gaspésie, je voyais un film d'un pompier, mettons, puis j'étais comme, oh, je vais être pompier plus tard.
Mm.
Puis après ça, je voyais un film avec un policier, puis j'étais comme, fuck that, je vais être policier, détective, genre. Puis à un moment donné, j'étais jamais capable de me décider, puis j'ai fait Chris, l'affaire qui les relie tous, c'est que c'était des films.
Exact.
Puis j'étais comme, je pourrais faire ça, tu sais.
Peut être tout ça.
Être un policier pendant 30 jours pour un film, après ça, être ça, puis ça, puis c'est
être
vraiment.
Être un prisonnier.
Ça. Être un prisonnier, puis rencontrer Alain, tu sais, qui est une personne extraordinaire qui va te conter des histoires. Il y en a tout le temps des nouvelles, là. Puis moi, je l'ai côtoyé longtemps pendant le tournage, puis je le vois encore des fois, puis il y en a tout le temps des nouvelles que je fais comme, Chris, tu m'as jamais dit ça, man. L'enfant qui a vécu, là, puis c'est justement ça qui est le fun de rentrer dans la peau de ce personnage-là, puis le vivre pendant quelques, quelques jours de mettre dans les culottes des autres puis essayer de comprendre, en fait. Je trouve ça vraiment... je trouve que c'est un privilège, en fait.
Ben oui. Ouais. Puis, tu sais, ça fait un peu un cercle complet vers ce qu'on parlait tantôt d'être capable de comprendre les autres.
Ouais.
Tu sais... C'est
empathique.
Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que si toi ton travail, c'est de constamment être capable de comprendre une réalité qui n'est pas la tienne, ça te rend beaucoup plus ouvert à comprendre des réalités qui sont pas les tiennes au quotidien.
Ouais. Ouais.
Puis pour boucler la boucle aussi, tu sais, tantôt on parlait de se confronter à des situations, tu sais, difficiles ou des émotions difficiles pour apprendre à dealer avec puis les gérer, tu sais. Puis le cinéma, je pense, peut vraiment nous aider à faire ça, tu sais, parce que, tu sais, le cinéma, c'est pas rien que tu sais, t'as le cinéma divertissement qui va être les Avengers puis qui va être toutes ces affaires-là, mais t'as toute une gamme de cinéma qui va être parfois moins évident à regarder ou qui va te confronter des émotions puis tout ça, mais qui vont à la fin du film, t'avoir fait vivre des choses, t'avoir transporté, t'avoir fait voir quelque chose de nouveau que t'avais jamais vu avant, vivre quelque chose de nouveau, voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre ou tout ça. Puis tu sais, ça peut
dans
vraiment, je pense...
Dans la culotte des autres, là, c'est vraiment
dans
ça.
Dans la culotte des autres, puis tu sais, ou vivre, tu sais, mettons, t'as jamais vécu de deuil dans ta vie, tu sais, t'as jamais perdu quelqu'un de proche de toi, ben... Si tu l'as un petit peu vécu à travers des personnages, tu sais, mettons, le premier deuil que j'ai vécu, c'est Mufasa dans Le Roi Lion, là, tu comprends? Tu sais, puis quand il est mort, j'ai pleuré, puis comme beaucoup d'autres, sauf que à ce moment-là, moi, comme plein d'autres personnes de ma génération, on compris c'est quoi le deuil, c'est quoi perdre quelqu'un de cher, tu sais. Puis après ça, quand ça arrive, t'as de la peine, mais ça arrive pas de nulle part, tu sais, tu fais, OK, cette émotion-là, j'avais déjà vécu 1% de ce que c'est, tu sais. Comme genre, on a vécu, mettons, même pas 1%, mais 0,1% de qu'est-ce que ça pouvait être la Deuxième Guerre mondiale, exemple, tu sais, quand t'as vu des films, tu sais, ça permet juste d'un petit peu comprendre ces réalités-là, ou de se préparer à des événements difficiles dans notre vie, ou faire comme ça. Fait que le cinéma, ça a vraiment des vertus.
Ça
peut nous rendre vraiment des meilleures personnes, carrément.
Parce que oui, puis j'aime je pense que c'est, en fait, je suis très. J'ai beaucoup de gratitude pour avoir des projets comme ceux-là qui me sont offerts, comme Mommy, une 54, Gut Instinct, qui, selon moi, sont trois projets qui parlent de scénarios qui sont tous vrais, des vraies choses qu'on peut voir, entendre parler, puis qui sont tous des sujets aussi, je pense, où est-ce qu'il y a un manque d'amour ou peu importe. Mais en fait, c'est juste, des sujets où est-ce que certaines personnes vivent ça. Puis là, de enfin voir un produit qui en parle de cette réalité-là, de leur apporter du bien, c'est une forme d'empathie, justement. J'ai beaucoup de gratitude pour ça, ouais. Vraiment.
Puis tu sais, le fait d'être comédien, puis j'en ai fait de même, j'imagine que, tu sais, toi, tous tes projets, ben, on en a parlé, mais tu sais, t'ont apporté quelque chose, t'ont fait apprendre des choses. Puis tous les comédiens qu'on a reçus au podcast, la majorité, c'est des gens ultra matures. Tu sais, comme toi, t'es super, comme on disait tantôt, t'es super jeune, t'es ultra mature. Ultra vif d'esprit, qui s'exprime super bien. Catherine Brunet est venue ici, elle s'exprime tellement bien, tu sais, avec tellement d'aisance, de facilité. Rosemary aussi, tu sais.
Ce milieu-là, moi, c'est ce que je remarque, là, ce milieu-là, très vite, t'oblige à être professionnel.
T'es
entouré de personnes plus vieux, tu sais. Je veux dire, nous, on a 12-13 ans sur tel film, ben, s'ils ont besoin d'enfants, mais le reste de l'équipe, c'est pas des enfants de 12-13 ans.
C'est des adultes qui ont pas le temps.
Qui ont une famille, qui ont des enfants non rares, puis qui sont occupés, tu sais. Ils n'ont pas le temps de niaiser, les autres sont là pour travailler. Puis oui, dans le plaisir, moi, si je vais dans le plaisir tout le temps, ben, j'adore le travail que je fais, tu sais, puis c'est important. Puis je le fais parce que j'aime ça, je pense. Puis c'est ça, t'apprend vite à devoir être responsable, puis comprendre cette routine-là, puis cette réalité-là. Puis ça fait des gens qui deviennent vite matures, vraiment, vraiment matures, là, les acteurs. Je pense que c'est des gens que j'aime beaucoup côtoyer pour
ça.
C'est ça.
Des gens intéressants. Oui, puis un métier qui te force aussi à devoir être la meilleure version de toi-même tout le temps, là, t'sais, être la meilleure possible à chaque scène, à chaque moment.
Puis parce que quand tu as une équipe de 30 personnes qui attendent que toi, tu nailes tes affaires, que toi, tu fasses une bonne performance, tu as cette pression-là aussi. Tu sais, toi, mettons, quand tu composes dans un studio, cette année, tu fais une track de marde, mettons, tu es tout seul dans ton sol, tu fais comme... Ah. Oh, fuck.
Ouais.
S'il y a 30 personnes qui sont autour de toi et qui checkent,
Non, non, c'est ça.
Plus de pression.
Non, c'est pas tous les tournages que tu peux faire sans
là, sur un plateau de tournage.
Tu dois te sentir mal.
Tu passes tout droit, là. Je pense que t'es arrivé à plusieurs d'entre nous. Sûrement. Puis là, c'est pas comme ah, fuck, tu sais, genre, je sais que telle personne va pouvoir me remplacer en ce moment, là. Moi, je peux pas, il y a personne qui peut me remplacer.
Ça vient de coûter tant à la prod.
Ah, ouais, ouais, là, tu capes. Je me souviens, ça arrive plus, heureusement, aujourd'hui, mais comme, man, ça m'a fait capoter, là.
Exact.
Puis là, tu rentres, puis les gens, tu sais, après ça, tout le monde te pique un peu. Hein, ouais, en tout cas, on sait qu'il arrive en retard, puis tu sais, gosse, mais c'est de l'amour. Mais effectivement, tu peux pas, tu sais, ou juste de sortir la veille, par exemple, puis t'arrives scrap sur le plateau. Il y en a qui le font, là, puis c'est correct, c'est leur choix, tu sais, mais je pense que c'est une forme de respect que moi, mettons, je me couche tôt la veille, puis je me prépare, puis j'arrive sur le set, puis j'ai hâte de faire cette scène-là. Ça fait un mois que je travaille dessus, mettons, et tout. Puis le gars qui a le Kodak, il est chaud, puis il est pas capable de me cadrer comme du monde, mettons. Tu sais, je
inverse les rôles.
Ouais, c'est ça, t'inverses les rôles. Puis je pense que c'est pas tous les acteurs qui s'en rendent compte.
Ouais, c'est ça.
J'entends des histoires des fois de personnes loin d'ici, aux États-Unis, évidemment, entre autres, qu'on entend souvent, mais je pense que c'est ça. Si t'inverses les rôles, là, moi, je regarde le playback, puis je fais comme tabarnak. J'ai donc bien l'air. Je veux dire, c'est quoi? Ça marche pas en tout, là. Puis parce que lui, il a décidé de faire le party la veille ou whatever.
C'est question des clips. Je suis hors focus complètement.
C'est ça. Si eux sont super professionnels, je pense que c'est la moindre des choses de l'être aussi de ton côté.
Tu parlais tantôt de Colin Farrell qui se souvient pas avoir fait certains de ses films, là, mais l'autre jour j'ai écouté une entrevue avec Seth Rogen, puis il disait, tu sais, il parle de sa consommation de weed, là, parce que tu sais, il fume tout le temps.
Il fume, Seth Rogen?
Non, mais tu sais, il dit ouvertement là, qu'il fume du weed.
J'ai vu sa collection d'ashtray sur Instagram, il fait des ashtrays genre à main en poterie, genre c'est fucking bon.
Puis c'était avec... c'est avec Stephen Colbert, me semble. Puis il dit, fait que toi, quand tu regardes dans un film, là, est-ce qu'il y a des chances que tu aies tourné cette scène-là
vraiment fucking
gelée, genre
100% des chances.
100% des chances.
Ah, il est tout
le
temps.
Je filme tout le temps. Ouais, fait que toutes les scènes que vous me voyez au cinéma, je suis gelé. Toutes. C'est drôle.
C'est fou, ça. Je sais pas comment il fait.
T'sais, lui, c'est parce que c'est rendu sa personne. Là, ouais, c'est indissociable de lui. Là.
Ouais.
T'es pas gelé, ce serait plus lui.
Ouais. Ouais, totalement. On a comme appris à le connaître comme exact. Ça. Ouais, puis je pense que lui, c'est juste une combinaison gagnante. Le pote pour lui, ça a l'air de faire.
Ça a pas l'air de le faire battre.
Non, c'est ça.
Pour lui, ça fait de bien.
Lui, ouais. Puis j'adore le travail qu'il fait, Seth Rogen. J'adore ce qu'il fait. Fait que je pense que pour lui, c'est une super bonne combinaison. Il y a du monde qui sont comme ah, si tu m'infimes tout le temps, je travaille, puis tout le blabla. Puis c'est comme, man, si t'es capable de travailler, je l'ai, man. Puis toi, c'est ça qu'il te faut. Ben, man, as long as you work, genre.
Tant que t'es
clutch, là, puis t'arrives à faire la job, ben, moi, je me dérange pas, tu sais.
Ouais. C'est clair. Hey, man. Merci infiniment.
C'était super le fun. Ça
fait plaisir, merci à vous, guys. Merci.
J'espère que
pendant 3 heures.
Encore, j'espère qu'il y a des auditeurs qui vont. Que ça va les aider, man. J'espère, moi ça m'a aidé.
Il y a plein de bonnes affaires de retirer, je pense, de ta conversation. De ce que tu as droppé aujourd'hui, man. Ouais. C'était vraiment super.
Merci les gars, très cool de parler avec vous.
All right.
Yes. Salut, man.
Longue vie au podcast.
Merci.